Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et pour ce nouvel épisode, c'est l'épisode de la rentrée hein, d'ailleurs. Ça fait pratiquement un mois que j'ai pas fait d'épisode, mais donc c'est une remise en jambe. Je suis avec Antoine Vigneron, cofondateur de Monsieur Moustache. Salut Antoine.
Salut Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Donc je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans.
Ouais.
Je suis en couple et papa d'une merveilleuse petite fille qui a 9 mois.
Félicitations.
Merci. Où j'apprends à être papa du coup.
Ouais.
Et je suis du coup le cofondateur de la marque Monsieur Moustache avec Thibaut et Guillaume. On est associés tous les trois maintenant depuis le début de l'aventure.
Très bien. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui en sachant que vous avez lancé Monsieur Moustache juste en sortant des études, quoi, tout de suite après votre école. Mais raconte-moi un petit peu avant ton enfance, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait, quelles études tu as fait?
Alors j'ai grandi à Paris, ouais. J'ai grandi dans la région parisienne, j'ai grandi à Meudon exactement. J'ai pas de spécificité avant le collège, le lycée ou quoi que ce soit. J'ai eu une enfance assez classique,
ouais.
Dans une famille de 4 enfants, donc où on apprend quand même à se débrouiller. J'étais pas excellent à l'école et surtout j'étais pas très intéressé par tous les sujets où je comprenais pas directement où ça allait m'amener, ce que ça allait m'apporter. Donc je travaillais que ce qui m'intéressait. Et donc j'avais pas des excellentes notes partout du coup à l'école. Et à la sortie du bac, je savais que je voulais faire une école de commerce, ça depuis un moment.
Ouais.
Mais en revanche, j'étais incapable de faire une prépa parce que je voulais vraiment rentrer dans le concret le plus vite possible.
Ouais.
Et donc du coup, j'ai fait le MLV, l'école de management Léonard de Vinci.
Ouais.
Le choix a été assez simple parce que il y avait beaucoup d'écoles post-bac qui coûtaient toutes plus ou moins 6 ou 7 000 euros l'année. Et en fait, j'avais la chance d'avoir grandi à Meudon, de faire partie des Hauts-de-Seine. Et le MLV était financé par le conseil des Hauts-de-Seine en grande partie, ce qui faisait qu'on payait que 1200 euros l'année au lieu de 6 000.
Ouais,
donc voilà, le choix a été assez rapide.
Et d'ailleurs, dans ce choix des écoles, parce que j'en parlais récemment avec une petite cousine qui parlait de ça, c'est moi je me suis toujours dit, si t'as les capacités de faire une prépa, il faut y aller, non?
Je pense qu'il faut y aller, mais il faut avoir envie de le faire.
Ouais.
Il faut avoir envie de le faire. Je pense que ça dépend vraiment des profils. Je pense que moi, dans mes amis proches, il y a des gens qui ont fait des prépas pour qui ça a été très bénéfique, qui ont accédé à des belles écoles et qui sont ravis. Même d'autres qui ont accédé à des moins belles écoles, mais qui ont appris énormément en prépa. Et je trouve que ça peut détruire aussi certaines autres personnes qui sont pas faites pour ça et qui ont été poussées par les parents et par la famille pour pouvoir faire uniquement une prépa, parce que c'est le seul schéma qui te permettra d'arriver à tes fins et d'être libre de pouvoir faire ce que tu veux plus tard. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, mais ça a aussi beaucoup de limites.
Ouais. Et ce choix d'une école de commerce, peut-être entre guillemets, de seconde zone, enfin qui est moins prestigieuse, c'est un choix. Enfin, comment tu l'as choisi finalement? Alors toi, tu l'as choisi parce que ça coûtait vachement moins cher que.
Ouais, et puis surtout, je l'ai choisi parce que c'était un non-choix aussi, parce que j'avais pas les capacités de rentrer dans une prépa qui allait me permettre de pouvoir me dire, tu sortiras dans les trois écoles de commerce parisiennes. En fait, c'était un choix sans avoir le choix, et du coup.
Et sinon, l'autre choix, c'était de partir en BTS ou en.
Ouais, mais ça pour le coup ça m'excitait beaucoup moins.
Ouais,
ça ça m'excitait beaucoup moins.
Ok. Ouais, donc l'école de.
Après avoir visité les écoles de commerce, voir les assos, voir tout ce qu'on pouvait faire aussi à l'intérieur, je me suis dit c'est fait pour moi, j'y vais quoi.
Ouais. Et tu rentrais en école de commerce avec cette idée que tu allais entreprendre?
Je pense. Ouais. Je pense clairement parce que je me suis tout de suite mis dans les assos, développer des projets, faire des projets, c'est ce qui m'animait et c'est ce qui m'a animé dès que je suis rentré en école. Je faisais déjà 2-3 trucs avant au lycée où je me rappelle que à la fin du collège ou au début du lycée, je m'amusais à acheter des lots de t-shirts ou de vêtements sur eBay. C'était les débuts d'eBay à l'époque et de les revendre à l'unité. Et voilà. J'ai toujours aimé faire ce type de choses depuis le plus jeune âge. Et du coup, c'est vrai que dès que je suis arrivé à une école de commerce, j'avais envie de faire pareil.
Donc raconte-nous ce parcours d'école de commerce. Qu'est-ce qui se passe? Ça dure quoi, 3 ans, 4 ans?
Ça dure 5 ans.
5 ans.
Ça dure 5 ans et ça dure même 6 ans parce qu'il y a une année de césure au milieu. Ouais. Puisque c'est des écoles post-bac, c'est en 5 ans avec les deux ans de prépa intégrée, comme ils peuvent les appeler, qui ne ressemblent pas du tout à une prépa intégrée d'ailleurs. Et ça dure 5 ans. Deux premières années de tronc général où finalement on n'apprend pas grand-chose, mais on apprend à rentrer dans les assos, à organiser des soirées et surtout à faire des soirées.
Ouais.
Très rigolo. C'est là où je rencontre surtout Thibaut et Guillaume qui sont mes deux associés aujourd'hui, ouais. Que je connais maintenant depuis un bout de temps. Mais dans l'école, j'ai surtout été beaucoup investi dans une asso dans l'asso de voile qui s'appelle Les Voiles,
ouais.
Et où j'ai passé beaucoup de temps à organiser les courses de France étudiantes et la course croisière EDEC et la participation à pas mal d'événements, mais ça a été beaucoup de temps et d'investissement parce qu'à chaque fois il fallait trouver des sponsors, donc va trouver des mecs qui ont envie de te payer 5000 euros pour que tu aies le droit de faire de la voile le week-end, faut avoir des histoires à raconter quand même,
ouais, ouais.
Mais c'était hyper intéressant et c'était hyper intéressant aussi de trouver une équipe qui soit capable de nous emmener assez haut sur le podium sur la course.
Trop bien,
voilà,
bravo.
Donc ça a été majoritairement ça et après ouais. À la fin de tout ça, ça a été aussi une petite année à la junior entreprise, ouais. où on a eu l'occasion de travailler ensemble avec Thibaut et Guillaume et un an de césure. Je fais pas mal de stages, j'ai fait un stage à Londres à la chambre de commerce et d'industrie parce que j'alignais pas 3 mots en anglais et il fallait que je me débrouille, il fallait que j'apprenne l'anglais, donc je me suis dit je vais apprendre l'anglais là-bas. Et ensuite en quatrième année j'ai fait un stage, enfin même une césure d'un an chez Euland Finance, qui est la boîte de Marc Fiorentino,
ouais.
Et où là j'étais en analyse financière où je préparais des docs pour des IPO ou pour des suivis de valeur cotée. Donc ça c'était hyper intéressant, j'ai vraiment appris énormément là-bas. Ça a duré un an et en fait le quotidien c'était de rencontrer toutes les semaines ou tous les 15 jours des chefs d'entreprise qui venaient nous parler de leur entreprise,
ouais.
Qui étaient hyper transparents sur leur activité, sur leur écosystème, et ça nous permettait vraiment d'aller creuser tous les sujets de fond pour pouvoir y mettre derrière une note pour savoir si c'était s'il y avait du potentiel ou pas sur cette valeur-là, parce qu'on estimait qu'avec nos analyses, il y avait un gros potentiel sur l'entreprise et que du coup la valeur allait monter dans les années à venir. Donc c'était hyper intéressant et en même temps, au fur et à mesure du temps, chaque mois qui passait, chaque rendez-vous qui passait, je me disais putain c'est génial, mais en fait moi j'ai vraiment envie d'être de l'autre côté de la table. J'ai pas du tout envie de passer mon temps à écrire des notes d'analyse, mais en fait j'ai envie de faire, j'ai envie d'être
le mec qui entreprend.
Le mec qui entreprend au quotidien. Ouais.
Mais ça c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai souvent entendu dans ce podcast, c'est que c'est en côtoyant des entrepreneurs que finalement ça a donné l'envie aux entrepreneurs d'entreprendre.
Ouais.
Et ça c'est peut-être un truc qu'il faut faire en fait dès le plus jeune âge, quoi.
Je pense, et puis je pense qu'aussi on le sent...
On désacralise peut-être aussi, non? C'est, en fait je pense à ça parce que c'est le... comment il s'appelle, Paul Sherba de Balibaris, qui avait fait ça. Et sa réflexion, c'était de dire, en fait, je me suis rendu compte que les mecs qui étaient en face de moi, qui me présentaient leur projet, ils n'étaient pas plus intelligents que moi et qu'ils étaient assez terre à terre, quoi. Enfin, assez simples et.
Ouais, ça paraît.
C'était pas si impressionnant que ça.
Ouais,
quoi.
Ça paraît accessible, en fait. Ça paraît accessible. Et surtout, au-delà du fait que ça paraisse accessible, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était de voir à quel point les mecs avaient des yeux qui brillaient quand ils me parlaient de leur projet et quand ils me parlaient de leur quotidien. Et cette énergie qu'ils avaient à parler de leur projet et de leur vie, tout simplement, j'ai envie de la vivre. Je me dis, en fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir une vie qui
est trépidante.
Qui est trépidante, quoi, exactement. Donc voilà, donc ça, fin de l'année de césure. Je reviens en cinquième année à Léonard de Vinci, donc sur les bancs de l'école. Et la première semaine, je me retrouve du coup dans le même master que Guillaume en ingénierie financière. Et Guillaume, il revenait d'un an à Shanghai où il a bossé pour le groupe Zanier. donc qui est un gros groupe d'industrie dans l'industrie du textile, où il s'occupait en partie du contrôle de gestion et de la prod.
Ouais.
Donc où il avait appris aussi plein de choses, et en fait, ouais, on se retrouve, et là les 10 premiers jours toutes les personnes de notre classe nous disent bon moi je veux trouver un stage en analyse financière, moi il faut à tout prix que je fasse de l'audit machin, et on se dit putain, mais nous en fait on en revient, et en fait on n'a pas du tout envie de faire ça. Et on n'a pas du tout envie de chercher un stage là-dedans. Donc du coup on dit bah ok, bah montons notre projet, montons notre boîte. On planche un peu sur le sujet pendant une semaine ou 10 jours, pas très longtemps. On avait vu pas mal de marques se lancer dans la chaussure. Ouais. Bobby's existait depuis 2 ans, il faisait que du mocassin à picot. Ouais.
Et qui cartonnait
ouais, dès le départ. Fago s'était lancé plus ou moins au même moment avec des baskets.
Ouais.
Et du coup, on s'est dit, on a regardé un peu le marché de la chaussure, on s'est dit que c'est quand même un marché qui est hyper vieillissant, et je reviendrai là-dessus après. Parce que nous, à l'époque, tu pouvais acheter, enfin, les marques de chaussures pour hommes qu'on connaissait, c'était Finsbury, c'était Loading, c'était des marques qui existaient depuis plusieurs dizaines d'années, et qui avaient un marketing et des produits qui s'adressaient principalement à une cible qui était nos parents, tout simplement, et où on a l'impression qu'ils ne se réinventaient pas du tout, qu'ils n'avaient pas du tout pris l'ère digitale. Et on se dit, bon, bah, il y a une vraie opportunité pour nous sur ce marché, surtout parce qu'en fait, il faut qu'on monte la marque qu'on aime. Et en fait, avant de se lancer, et donc du coup, avant toutes ces discussions, on se dit, bon, Guillaume, toi, tu as un profil de parcours financier, moi aussi. On veut lancer une marque de chaussures, peut-être falloir faire appel à un mec qui a fait un peu de marketing, parce que ouais, sinon, on va se planter. Et en fait, on avait, enfin, Thibaut, qui est un copain de l'époque, lui avait fait son année de césure chez Publicis, il s'était fait embaucher chez Publicis, donc il était parvenu faire son master 2. Et donc on a pris un café, enfin on a pris une bière avec lui un soir, on lui dit voilà, on a ça en tête, est-ce que ça t'intéresse? Et le lendemain, on se retrouvait dans un café pour en parler plus sérieusement, et l'aventure était partie, quoi.
D'accord. Et voilà. Là, vous dites quoi au café?
Bah, on se dit ça, on était en octobre 2011. Et on se dit, ben, on planche sur le sujet, on monte un dossier un peu sérieux pour savoir exactement ce qu'on va raconter. On voulait créer vraiment une marque pour nous qui nous corresponde en termes de produits, comme en termes d'univers, comme en termes de com. C'était très simple, c'était hyper égoïste, hein, mais c'était hyper simple parce qu'on se dit, si ça nous
clients.
Plaît à nous, ça va plaire à nos copains, et si ça nous plaît à nos copains, ça va plaire à d'autres personnes. Et donc ça, on se lance en octobre et on se dit, voilà, ben, on se donne 3 mois pour plancher sur le sujet, pour monter un truc un peu sérieux. On présente le dossier à l'incubateur qui était l'incubateur Léonard de Vinci Dauphine, parce qu'ils avaient un incubateur en commun. Si on est pris dans l'incubateur, on continue. Si on n'est pas pris, on réfléchira. On présente le dossier en janvier, on est pris dans l'incubateur, ils nous mettent des bureaux, un petit bureau à dispo. Bon, on se dit go, bah, on continue.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, on se dit bah, la marque, il faut qu'elle soit lancée en septembre. Donc en gros, on a 8 mois pour faire exister des produits, une com et tout ce qu'il faut.
Trop bien.
Voilà.
Exciting. Et donc là, on va rentrer dans le sujet, parce que un des trucs qui revient souvent, c'est il faut faire un BP pour se lancer, etc. Dans ce BP que vous avez présenté à l'incubateur, il y avait quoi dedans? Qu'est-ce que vous racontiez dedans exactement?
Alors moi, pour le coup, des BP, j'en avais fait un paquet en stage, donc je connaissais un peu le sujet. Et ça m'a beaucoup servi pour une chose, c'est qu'on a réussi à lever de la dette avant même d'avoir lancé la boîte. Et je remercie encore.
C'est assez ouf ça quand même.
La banque de nous avoir suivis, et je me demande encore comment ils nous ont suivis. Mais
et c'était combien?
C'était 20 000 euros, donc c'était pas grand chose, mais c'était quand même de l'argent pour une boîte qui n'existe pas.
Et 3 étudiants quoi.
Et pour 3 étudiants quoi, clairement. Sans caution évidemment.
Bien
donc
sûr.
Ça c'était chouette. Donc du coup le BP, ce qu'on a mis, très simple, hein, c'est combien il nous faut pour démarrer, combien de paires il faut produire pour pouvoir démarrer et se lancer. La saisonnalité et surtout les minimums de quantité, parce que dans la chaussure il y a quand même un minimum de quantité qui est assez important.
D'accord, c'est quoi les minimums?
Au début, quand on s'est lancé sur la première collection, on avait produit avec les contacts de Guillaume en Chine, et produire moins de 500 paires à la couleur, c'était impossible. Donc du coup on est parti avec un stock de 2000 paires dans le noir,
avec 4 modèles, donc.
Avec 4 modèles où on a eu la plus belle idée qu'on ait jamais eue de produire la même quantité par couleur. Donc le bleu ciel qui ne vend pas, tu le produis la même chose que le marron et le bleu marine.
On s'est posé
la question après de dire comment on avait pu ne pas penser à ça, mais bon, au moins ça nous a permis d'apprendre pour la suite et aujourd'hui l'erreur on la fait plus du tout.
J'espère que vous l'avez écoulé le stock.
Ouais, on l'a écoulé depuis, mais c'est vrai que
ça fait mal au début. Ouais.
Le bleu ciel,
elle part dans le bleu ciel, quoi.
Ouais, et puis surtout c'est tout ton cash pour pouvoir produire la saison d'après, quoi.
Ouais.
Donc c'est ça qui est compliqué.
Et comment vous êtes dépatouillé du truc, parce que justement pour pouvoir produire la saison d'après,
on a levé des fonds très vite.
Okay.
On a très vite levé des fonds. En fait, quand on s'est lancé, on s'est lancé avec 55 000 euros. On a mis 5 000 euros chacun de notre poche. Qu'on a emprunté quasiment à la banque ou à nos parents, mais qu'on a emprunté 20 000 euros, donc du coup une banque qui nous a suivis, et on a levé 20 000 euros auprès de copains, où en gros on leur a présenté le dossier, on leur a dit qui a 1000 balles ou 2000 euros à mettre. Nous clairement on les avait pas, mais on s'est dit bon, y a peut-être des copains qui ont déjà un peu de sous. Et du coup il y a des copains qui ont mis entre 1000 et 5 000 euros, et on est parti avec 55 000 euros.
D'accord.
Pour le lancement.
D'accord.
Et on avait dilué beaucoup le capital, parce qu'on avait dilué le capital de 20% pour 20 000 euros. Et donc du coup, un an après le lancement, on a racheté tout le monde pour pouvoir se relever et refaire une opération. Autrement, ça aurait été ingérable.
Ouais, ouais. Et ces 55 000 euros, vous les avez dépensés dans quoi ?
C'était très simple. La majeure partie, c'était pour la production, le produit. Déjà développer le produit, donc les allers-retours dans les usines.
Vous avez été voir un designer pour ça, ou vous l'avez fait
On a été voir deux designers différents avec qui on a bossé à Paris, avec qui on a exprimé nos idées. L'idée vraiment à la base était très simple. C'était de se dire, en fait, on est étudiant, on a porté beaucoup de baskets étant étudiant, on rentre dans le monde du travail, on est des jeunes actifs, comme on nous appelait à l'époque. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas obligé de mettre un costard cravate pour aller bosser, mais tu as quand même besoin d'avoir des chaussures qui tiennent un peu la route et qui te permettent d'aller bosser.
Tout en étant cool,
mais tout en étant un peu sérieux.
Ouais.
Et en fait, on se dit, voilà, nous, il faut la même paire de chaussures qui va nous suivre toute la journée, avec lesquelles on va aller bosser et avec lesquelles on va aller faire un after work. Et en fait, cette paire de chaussures, c'est la marque Monsieur Moustache, c'est la paire qui va vous suivre au quotidien.
D'accord.
Et donc, du coup, on s'est dit, on va prendre la base d'un Richelieu, qui est une chaussure très classique. Et on va faire un hybride entre un Richelieu et une basket, donc sur une semelle de basket. Et on va reprendre des matériaux, donc des mix matières, en Suède, en cuir, qu'on retrouve beaucoup sur des chaussures. Du coup, à chaque fois, toute l'idée de base sur le développement des produits, c'était de réinventer des classiques et de les réinventer avec en mixant à l'infini les mix couleurs et les mix matières.
D'accord.
Voilà, c'était vraiment le pitch de base pour le.
Très bien. Et ça a évolué.
Et ça a peu évolué l'idée est toujours la même aujourd'hui. C'est je prends un classique, je prends un basique, je réinvente. Comment est-ce que je mets cette patte Monsieur Moustache, ce mix matière, ce mix couleur. Comment est-ce que je viens mettre vraiment l'ADN de la marque. Comment est-ce que j'arrive à reconnaître un produit Monsieur Moustache parmi d'autres. Et ça, je reviendrai après là-dessus sur le wholesale, parce que ça a été un très grand apprentissage pour nous. Comment est-ce que je retrouve cette patte Monsieur Moustache sans avoir besoin de mettre un énorme logo au milieu du produit.
Donc les 55 000 euros, développement produit, fabrication, production.
Fabrication, production, site internet.
Ouais.
Site internet.
Et à l'époque, c'était quoi ? C'était WooCommerce ? Enfin,
C'était un PrestaShop.
Un PrestaShop, ouais.
C'était un PrestaShop. Mais il fallait quand même développer un site et un peu d'argent. Enfin, un peu d'argent. Très peu d'argent, mais un peu d'argent quand même pour pouvoir faire des photos, faire une campagne. Parce que dès le départ, les marques que je citais tout à l'heure, les Finsbury Loading ou même des Minelli, on faisait pas de femmes à l'époque parce qu'on s'est vraiment lancé que sur l'homme. Alors on est en septembre 2012 au moment où on se lance, et on se disait, ces marques là en fait, le problème c'est que à nos yeux elles se réinventent pas. Qu'on y aille l'été ou l'hiver, tu passes devant une vitrine, t'as l'impression que c'est les mêmes produits avec la même com. Et nous, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a des marques dans le prêt-à-porter comme SMCP qui explosent, il y a la fast fashion qui a déjà explosé. En fait, il faut qu'on applique exactement le même modèle à la chaussure, et il faut que toutes les 6 semaines on vienne prendre la parole avec un nouveau produit, donc une collaboration, ou avec une nouvelle com, mais qu'on vienne prendre la parole avec quelque chose de nouveau, avec du contenu, avec quelque chose d'intéressant à raconter à nos clients, pour qu'en permanence on vienne alimenter cette marque. Et que pareil, quand on met nos produits en scène, on fasse des vrais shootings, et on fait pas des pack shots sur fond blanc chiant à mourir, où faut qu'on exprime tout l'univers de la marque à travers les pack shots et à travers les photos qu'on va faire.
Et ça, donc, à l'ère Instagram, c'est je pense que tout le monde a compris ça, mais
ouais. Il n'y avait pas Instagram à l'époque.
Ouais. Donc ça, vous le comprenez vachement rapidement. Mais vous investissez combien sur la première campagne et sur les campagnes qui suivent?
C'est pas grand chose. On doit investir 1 000 euros, 1 500 euros.
Ouais.
Les mannequins, c'est que des copains. Le photographe, c'est un copain. Enfin non, c'est même pas un copain à l'époque. Le photographe, c'est nous. C'est Guillaume une fois qui a pris l'appareil photo pour faire les photos. Puis son oncle, puis un copain. Voilà. Enfin, ouais. Au début, c'était beaucoup. De toute façon, on se débrouille. On n'a pas le budget, donc il n'y a pas de sujet.
Mais on doit quand même faire rêver et essayer d'installer une identité, quoi.
Évidemment. Et puis on n'a pas envie de paraître pour la marque de copain. Même si on paraît pour la marque de copain, on n'a pas envie de paraître pour la marque de copain parce qu'on a envie que le produit qu'on va vendre, le client, il achète un certain prix.
Ouais.
Il faut
qu'il ait le même service qu'à côté, quoi.
Exactement. Et surtout, il faut qu'il ait l'impression d'acheter cette marque qui est si attirante.
Ouais. Ouais. Ok. Donc les 55 000 euros, ils partent là-dedans. Vous faites un peu d'acquisition. Raconte-moi les premiers clients, c'est qui ?
Il y a pas un euro en acquisition.
Ok.
Les premiers clients, c'est que des copains de copains.
D'accord.
En effet, boule de neige sur Facebook.
Ouais.
On avait fait un lancement sur Facebook avec un teasing dont je me rappelle encore comme si c'était hier que Thibaut avait mené d'une. Parfaitement pour les 10 ouais. premiers jours de lancement et en fait voilà c'était vraiment 10 ou 15 jours de teasing puis lancement et puis après on voit quoi, voilà, on voit si les produits partent jusqu'à ce qu'on croise pour la première fois un mec qui porte une paire de Monsieur Moustache dans le métro, je me rappelle encore, j'avais été le voir t'es le premier mec que je vois que je ne connais pas, qui est pas un copain, qui porte une paire et voilà, et lancement du coup septembre 2012 et on s'est lancé du coup que sur notre site internet et en wholesale.
Direct.
Parce que, ouais, directement en wholesale, parce qu'en fait, on s'est dit une seule chose, c'est on n'a pas les moyens de faire de l'acquisition, on n'a pas de budget marketing. Donc en fait, le seul moyen pour pouvoir exister, c'est d'être présent aux côtés des marques qu'on a identifiées comme des marques concurrentes à qui on veut prendre des parts de marché, dans tous les points de vente dans lesquels elles sont distribuées. Et donc du coup, on avait identifié une centaine ou 150 points de vente en France qui étaient des points de vente qui distribuait les marques à côté desquelles on voulait les distribuer. Et donc du coup on a été avec notre valise toqué à la porte de toutes ces personnes là les deux premiers magasins qu'on a ouverts, c'est Le Refuge dans le 6ème et The Tube qui est une boutique qui n'existe plus à Châtelet on a fait au début beaucoup de wholesale comme ça. On s'est séparé la France en deux avec Thibaut, on a pris notre voiture et on faisait pendant la première année, on passait pas mal de temps sur la route à aller frapper à toutes les portes et à dire voilà, maintenant c'est la marque de chaussures qu'il faut acheter, c'est Monsieur Moustache et je vais t'expliquer pourquoi.
Voilà. Et tu leur disais quoi? Et ils croyaient?
On avait un storytelling qui fonctionnait plutôt bien. Toutes les paires de Monsieur Moustache, elles portaient des noms. Il y avait Fernand, il y avait Alfred. Ouais. On avait créé tout un univers autour de ça. Elles étaient distribuées dans des anciennes caisses à vin. Donc c'était des caisses en bois.
D'accord.
Et du coup, on avait tout un storytelling où on posait la caisse en bois sur la table. On parlait avec les acheteurs. On attendait qu'une seule chose, c'est qu'eux-mêmes ouvrent la boîte.
D'accord.
Pour aller toucher le produit. Parce qu'à partir du moment où ils avaient commencé à attraper le produit dans les mains, on savait que c'était gagné et on savait qu'on allait pouvoir ouvrir le compte.
Trop bien.
Voilà.
Au début, là, vous partez sur stock. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi vous n'avez pas fait un crowdfunding comme ça se ferait aujourd'hui et comme ça se faisait peut-être à l'époque déjà?
Alors, c'était pas. Enfin, ça existait, mais. C'était.
Ah, pourquoi prendre autant de risques en fait? Parce que tu pars. Enfin, 55 000 euros quand t'es étudiant, c'est quand même beaucoup d'argent.
Ouais, c'était beaucoup d'argent. Après, on pensait pas prendre énormément de risques en le faisant.
Ouais.
Parce qu'on estimait que ces 2000 paires de chaussures, on allait pouvoir les vendre rapidement. On était sur un panier moyen à 75 euros. C'est des produits qu'on vendait quand même pas très cher. Avec une communication qui était adaptée, on se dit voilà, 2000 paires, on mettra peut-être un peu de temps à les vendre, mais on les vendra et ça nous faisait pas tellement peur en fait.
Vous étiez hyper optimiste quand même.
Ouais, on était hyper optimiste et on l'est toujours hein, autrement, parce que je pense qu'autrement on fait rien.
Ouais.
Mais
2000 paires, c'est quand même énorme quoi.
Bah,
enfin, avec le recul, peut-être pas du tout, mais
ouais,
quand tu pars de zéro, ça pouvait
paraître énorme, mais c'était les calculs qu'on s'est fait. On s'était fait un BP, hein, voilà, combien de paires on peut vendre par semaine, combien de paires on peut vendre en wholesale. Parce qu'il y avait quand même une grosse partie sur le wholesale où on estimait qu'on allait vendre 70% de notre volume sur le wholesale.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est pour ça que en fait, 2000 paires, ça peut paraître énorme, mais à chaque fois qu'on passait une commande, à chaque fois qu'on ouvrait un compte, on mettait entre 50 et 100 paires. Donc finalement, en fait, il faut pas ouvrir tant de comptes que ça pour ouais. pouvoir réussir à diffuser tout son stock. Ouais. Mmh. Voilà, il faut ouvrir 20 clients rapidement mmh. et le stock est vendu. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, on s'est lancé comme ça.
D'accord.
Et en fait, très rapidement, du coup, on a participé au premier salon pro que sont le Who's Next. Ouais. Et là, on a ouvert Printemps et Galeries Lafayette.
Ils ont tout de suite catché, quoi.
Ils ont tout de suite catché, oui, mais avec des conditions commerciales qui étaient ignobles. Hein, c'est-à-dire qu'on ne gagnait pas 1 euro. On n'en perdait pas, mais on ne gagnait pas 1 euro okay. chaque fois qu'on vendait une paire chez eux.
D'accord.
Avec des co-F2-3, c'était vraiment la cata. Mais ça nous permettait d'être présents, ça nous permettait d'avoir une assise, de faire de la notoriété de marque gratuitement, finalement. Enfin, on payait notre notoriété de marque en gagnant pas d'argent.
Ouais.
Et du coup, on a commencé comme ça. Et l'objectif, c'était de se dire, OK, bah, maintenant, très très vite, on va ouvrir... les 100-150 comptes qu'il nous faut en France qu'on a identifiés pour assurer 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour en avoir aller. Suffisamment ouais. de poids derrière dans les usines pour D'accord. pouvoir développer les collections qu'on veut
ouais. Et ce chiffre-là, vous l'avez atteint au bout de combien de temps?
Alors la première vraie année, on fait 350 000 euros de chiffre d'affaires, la deuxième on fait 600 et la troisième on fait 1 million. Donc au bout de 3 ans, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires.
D'accord.
Et au bout de 4 ans, on faisait 2 millions.
D'accord,
voilà.
Très bien.
Et donc ça, on a mis 3 ans à l'atteindre. Et on l'a atteint aussi parce que au bout de 2 ans, on a lancé la femme. Donc ça a été des longues discussions entre nous trois de savoir si une femme allait vraiment acheter du Monsieur Moustache avec tout oui. l'univers très masculin qu'on avait
créé. Avec le nom que vous aviez choisi.
Ouais. Exactement.
Ouais.
Et finalement, en fait, on avait de la demande de femmes sur des produits androgynes sur des Richelieu qu'on avait développés et du coup on s'est dit bah la demande est là, faisons-le. Si on recrée une nouvelle marque, en fait c'est comme si on repartait de zéro, donc on s'appuie pas du tout sur ce qu'on a fait pour Monsieur Moustache. Et en fait il s'est avéré que ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui plus de 60% du volume est fait par nos collections féminines femme. Et donc du coup il n'y a pas de sujet.
C'est ouf.
Ouais.
Peut-être pour tu les as déjà un petit peu égrenés, mais les différents milestones de la marque, est-ce que tu peux nous les dire, nous expliquer un peu l'évolution et la montée en puissance de la marque?
Ouais, bah donc septembre 2012 le lancement.
Ouais.
On fait que de l'homme, donc un milestone quand même de rentrer dans les grands magasins. Donc ça c'est en janvier 2013, on a les commandes, mais du coup on rentre en septembre 2013 parce qu'il y a 6 mois et c'est toute la complexité du wholesale et le besoin du coup de BFR. Donc septembre 2013, on rentre dans les grands magasins. Septembre 2015, on lance la femme qui prend très vite, on accélère dessus. Et donc une fois qu'on a consolider un peu de chiffre d'affaires, on emprunte de l'argent pour ouvrir notre première boutique. Mm. Et on ouvre notre première boutique en septembre 2016, rue Vieille du Temple dans le Marais.
Ouais. Pourquoi une boutique?
Parce que c'était pour nous essentiel d'ouvrir une boutique en tant que marque et ça permettait de pouvoir proposer et présenter tout l'univers de la marque et tout l'univers qu'on avait en tête à travers une expérience client globale et concrète.
Ouais.
Et surtout parce que ça nous permettait aussi de reprendre la main sur l'expérience qu'on voulait proposer à nos clients en la maîtrisant à la fois en e-commerce et en retail, parce qu'on ne la maîtrisait pas du tout en retail. Et en fait la grosse problématique du wholesale, c'est qu'au-delà d'avoir beaucoup moins de marge, c'est surtout qu'on ne maîtrise pas du tout la manière dont sont présentés les produits, la manière dont sont vendus les produits. Et donc du coup l'expérience client qui est proposée par beaucoup de nos partenaires ne nous plaisait pas forcément. Et on dit voilà, le seul moyen de reprendre la main là-dessus, c'est de commencer à ouvrir une première boutique et de se constituer un réseau de boutiques par la suite.
Et justement là-dessus, si c'était à refaire, tu le referais? Est-ce que vous le referiez d'ouvrir une boutique?
D'ouvrir une boutique?
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. 100 fois, et si on. Et avec du recul, on le ferait peut-être même plus tôt.
Ah ouais? Ouais. Ok.
Même si la difficulté d'avoir une boutique, c'est que même une petite boutique, il faudra beaucoup de références.
Ouais.
Pour pouvoir quand même rentrer dans un magasin où on a du choix. Et avoir 150 références en chaussures, c'est quand même énormément de boulot sur le développement des formes. C'est un métier qui est quand même très technique et très complexe à chaussures par rapport à d'autres métiers de la mode.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on met du temps et on met quand même du temps à acquérir toutes ces notions et tout ce savoir-faire pour pouvoir présenter une collection complète qui est confortable et qui est stylée, quoi.
Et ça, vous y êtes arrivé aujourd'hui, mais j'imagine que ça a pris vachement de temps. Vous avez dû faire plein d'erreurs au début.
Ah, on a fait énormément d'erreurs. Ouais. La qualité des premières chaussures qu'on a sorties, c'était catastrophique.
Ouais.
Le design était cool, Ouais. Franchement, le design était cool et on a encore le premier prototype qu'on a reçu ici dans notre bureau. Mais non, le design était cool et ça répondait bien au brief. Mais en revanche, en termes de qualité, en termes d'abrasion des caoutchoucs, qualité des cuirs, maîtriser les différentes peaux, le textile, les doublures, enfin voilà, il y a énormément de choses à savoir.
Ouais.
Maîtriser les formes, les courbes, voilà, tout ça on a appris sur le tas à force de faire des erreurs tout simplement. Et une fois qu'on commençait à peine à maîtriser l'homme, on s'est lancé sur la femme.
Et là c'est encore une autre histoire.
Voilà, les courbes des talons sur la femme, il y a quand même un paquet de trucs à savoir. et surtout après on a appris beaucoup parce qu'on s'est associé avec différents partenaires, on a changé de partenaire.
Ouais.
Et là les gens avec qui on travaille maintenant depuis 7 ans,
ils sont au carré.
C'est des pointures et ils nous apprennent encore des trucs au quotidien.
On va revenir sur la prod un peu plus tard, mais revenons sur les milestones de la marque. Donc ouverture de la boutique.
Ouais, ouverture de la boutique en septembre 2016. Donc il démarre très fort.
Ouais. Et là, ça change quoi? C'est que le chiffre d'affaires, il s'envole?
Le chiffre d'affaires, il s'envole pas, mais parce qu'on avait déjà. À cette époque, on faisait déjà. Alors attends, on est en 2016. Donc 13, 14, 15, on faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-là.
Ouais.
Cette boutique, dès la première année, elle fait plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires en hors-taxe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le retail qui parlent en TTC. Nous, on a toujours eu l'habitude de parler en hors-taxe, donc je le précise.
Ouais.
Mais donc ça fonctionne tout de suite très bien et on est ravis. Et surtout, en fait, c'est le jour et la nuit en termes de notoriété de marque.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a une marque, pignon sur rue. Dans
tu
le marais,
existes, ouais.
Où les gens peuvent venir essayer leurs produits. On propose un service et une expérience à nos clients qui n'avait rien à voir avec celle qu'on pouvait proposer auparavant. Donc ça, c'est vraiment un vrai milestone. Et du coup, on mettra ensuite 2 ans avant d'ouvrir notre deuxième boutique aux Abbesses en septembre 2018.
Pourquoi vous avez autant attendu?
Parce qu'on n'avait pas de cash, tout simplement.
Ouais.
On attendait de bien stabiliser aussi le modèle retail.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce modèle?
C'était avoir du recul sur les équipes, sur les collections, sur la profondeur des collections qu'il fallait avoir, sur le stock. On aurait pu accélérer un peu plus tôt, mais en parallèle, en fait, on essayait d'ouvrir l'international. On a dépensé pas mal d'énergie parce que vu qu'on avait quand même passé pas mal d'énergie sur le wholesale, en fait la suite assez logique du wholesale, c'est qu'une fois qu'on a verrouillé les 200 points de vente en France avec qui ça fonctionne bien, on va à l'étranger directement. Et donc du coup on a passé un peu de temps sur tous les pays limitrophes, on a passé un peu de temps aussi Japon, en Corée du Sud, avec qui on travaille encore aujourd'hui, mais qui sont des marchés à mon sens avec énormément de potentiel, mais sur lequel il faut investir vraiment beaucoup en termes d'énergie avec une équipe dédiée si on veut vraiment percer.
Et passer du temps dessus.
Exactement. Et donc du coup, ça on l'a peut-être fait un peu trop tôt.
Ouais.
Mais bon, du coup on a beaucoup appris et ça nous permettra demain de pouvoir réaccélérer au moment où on sera prêt sur ces marchés-là. Et donc ça c'était en septembre 2016, donc la première ouverture l'ouverture de la boutique Ruée du Temple. Et la deuxième, du coup, on l'ouvre en septembre 2018.
Ouais.
Donc ça c'est aux Abbesses.
Ouais.
Les Abbesses parce qu'en fait on trouve une belle opportunité et c'était un quartier qui montait depuis 2 ans en termes de flux. Qui fonctionne, une boutique qui fonctionne aussi très vite, très bien. Et derrière, du coup, on ouvre dans les 18 mois qui suivent Bordeaux, Toulouse, parce qu'en fait, on voulait valider aussi le modèle retail en province, dans les grandes villes de province, puisqu'on était une marque principalement parisienne. Et donc, du coup, on voulait tout de suite voir si le modèle fonctionnait en province avant de se dire derrière, on pourra continuer à accélérer dans toutes les grandes villes de France.
Et il a fonctionné?
Et ça a fonctionné, ça a fonctionné. Alors il y a des villes qui prennent plus rapidement que d'autres. C'était
D'accord.
intéressant de voir ça.
Ouais.
Il y a des villes où en fait on avait une notoriété de marque qui était plus importante.
Tu l'expliques comment ?
Assez compliqué à expliquer. Je l'explique pas forcément. Nous, ce qu'on savait, c'est que plus de 65% de notre chiffre d'affaires, il était fait en région parisienne, en e-commerce.
D'accord.
Au moment où on ouvre nos boutiques en province. Donc on avait
c'est
du
très
mal.
Parigo, ouais.
Ouais, et du coup, on avait du mal à en faire une marque nationale.
Ouais.
Et donc, du coup, l'ouverture des boutiques à Bordeaux et à Toulouse nous a aidés.
Tu penses que c'est la seule façon de le faire?
Non, je pense que on avait essayé de faire un peu plus d'acquisitions ciblées sur ces zones-là, du coup sur du Facebook et du Instagram. Mais je pense qu'effectivement, ouvrir une boutique dans ces villes-là, ça aide vraiment parce que ça permet à tous les gens aussi qui hésitent de pouvoir venir voir la marque, de toucher les produits, de venir les essayer, de proposer vraiment une expérience. Et c'est toutes ces personnes-là qu'on n'arrivait pas à convertir avant, qu'on a converti aujourd'hui et qui sont maintenant le socle de clients fidèles qu'on a dans la zone.
Et une boutique aujourd'hui, vous le voyez comme un... Enfin, de façon peut-être plus directe ma question, mais c'est une boutique ça coûte quand même vachement d'argent, quoi.
C'est énormément d'investissement en pas de porte.
Ouais. Mais c'est une dépense marketing ou c'est vraiment un truc qui ramène du cash?
Tout le calcul, il se fait sans dépense marketing. Mm. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une boutique, elle doit être rentable et que si elle n'est pas rentable, en fait, c'est qu'on s'est planté. Mm. Et on ne se dit pas, oui, mais c'est quand même de l'acquisition pour du e-commerce et ça nous permet quand même de transformer certains clients qu'on n'aurait pas transformés.
J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de marques qui font ça quand même, non, qui ne gagnent pas forcément de l'argent.
Nous, en tous les cas, on ne le vit pas du tout comme ça et toutes les boutiques doivent être rentables.
Bien sûr.
Et en gros, chaque boutique qu'on ouvre, elle doit être capable de s'autofinancer et de rembourser surtout son pas de porte en moins de 7 ans. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre une boutique, c'est comme ça qu'on prend la décision de savoir si on veut ouvrir une boutique ou non en fonction du montant du pas de porte.
Ok, très bien.
Mais effectivement, au-delà de ce business model purement boutique, l'idée c'est quand même de se dire que une boutique placée dans un emplacement numéro 1, parce que de toute façon tout ça on le sait, mais en retail c'est emplacement et donc du coup à chaque fois on choisit un seul bout de rue où on veut être placé et tant qu'on n'a pas l'emplacement disponible ici, on n'ouvre pas.
Vous faites accompagner là-dessus?
On se fait accompagner par pas mal d'agents, mais il y en a un avec qui on a fait beaucoup d'opérations. On a fait 3 des 5 opérations avec le même agent.
D'accord.
Qu'on a trouvé sur un salon.
Ouais, sur un salon.
Ils sont venus démarcher. Ça, généralement, ils savent bien le faire.
Après, les milestones qui ont suivi, donc là, tu as ouverture de la 5e boutique.
Ouais.
Là, tu as fait les différentes villes en province.
Ouais, là, on a fait les différentes villes en province. Donc, ça, c'était en juillet 2019.
Donc, là, on monte à combien d'euros de chiffre d'affaires?
On clôture à fin mars. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où on s'est lancé, on s'est dit ouais, fin mars c'est pas mal, c'est la fin de la saison de l'hiver et puis c'est le début de l'été.
Ouais.
Parce qu'on n'y connaissait rien. Bon, ça aurait été plus facile de clôturer fin janvier ou même fin décembre. Et peu importe.
Si c'était à refaire, tu ferais fin décembre.
Ouais. Et on fait 4,5 millions de chiffre d'affaires à cette époque-là.
Au bout de 7 ans de.
Au bout de 6 ans.
D'existence.
Et au bout de 6 ans d'existence. Et l'année dernière, on a fait 6,5 millions.
D'accord.
Voilà. Et du coup, là, on a ouvert dernièrement Boulogne, qui était une ville qu'on ciblait parce qu'on voulait mettre une boutique en plus à Paris. La logique aurait été de le mettre, enfin, la logique, parce que toutes les marques sont implantées là-bas, mais d'en mettre une dans le 6e arrondissement, une d'en mettre une rive gauche.
Ouais.
Mais en fait, les valeurs sont excessivement chères et du coup, ça ne nous intéressait pas. Et on a une belle opportunité à Boulogne, du coup, on s'est installé ici.
D'accord. Et vous êtes content?
Et on est ravis, mais enfin, on est content.
Vous avez pris le Covid dans les dents, quoi.
On a ouvert 15 jours avant le Covid.
Ouais, ok.
Donc, on ne connaît toujours pas le potentiel de la boutique. Mm. Clairement, on ne le connaît pas.
Vous le saurez dans un an et demi, quoi.
Ouais, je pense qu'on le saura dans un an. Déjà, on attend le mois de septembre parce qu'il y a beaucoup de la population de Boulogne qui sont partis en vacances très tôt.
Mm.
Et donc, du coup, on n'a aucune idée du potentiel de la boutique.
Mm. Revenons peut-être sur ce passage un peu compliqué avant de parler du futur. Le Covid, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réduit la voilure? Comment vous avez sauvé les meubles?
Ça a été un moment du coup, comme tout le monde, particulier et brutal. Nous, ça a été on l'a vécu, enfin de toute façon on l'a pas bien ou mal vécu, mais de toute façon on l'a vécu, il fallait le vivre et comme comme tout le monde, et puis comme tout entrepreneur, il y a des hauts et des bas, et puis surtout il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer demain, donc on est prêt à faire face à ce à quoi on est confronté. Mais ce qui a été quand même assez particulier d'être dans cette dynamique de on développe des BP pour aller chercher le maximum de croissance et on était sur une croissance entre 40 et 70% par an. Et donc du coup on était en train de bosser que là-dessus, donc on venait de prendre de nouveaux bureaux où on peut accueillir jusqu'à 40 personnes parce que on avait du coup des perspectives de croissance à court terme qui étaient assez importantes. On avait fait pas mal d'embauches, donc nous c'est de dire voilà, j'ai une équipe qui est un peu surstaffée pour ce qui va nous attendre là dans les 6 mois qui arrivent. En même temps on a une politique en interne où on essaie de d'offrir les meilleures conditions de travail à nos salariés. Et voilà, on a envie que les gens ils arrivent avec la banane tout simplement le matin quand ils arrivent au bureau, et pas avec la boule au ventre. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, bah, tous les gens qui sont présents ici, pour l'instant, personne n'est en risque, et on trouvera des solutions pour pouvoir conserver l'équipe, pour être sûr que quand ça redémarre, on est tous, on se serre tous les coudes pour pouvoir avancer vite et loin comme on le fait. Donc du coup, ça a été un peu particulier de se retrouver dans une situation où je gère de la croissance. On bosse sur de la croissance à bon, faut fermer les boutiques, donc il n'y a plus de chiffre d'affaires sur les boutiques. Les 15 premiers jours du Covid, le chiffre d'affaires du e-commerce a plongé. Donc ça, c'est un peu comme tout le monde, mais voilà, donc les boutiques sont fermées, le chiffre d'affaires du e-commerce plonge, le wholesale, j'en parle pas parce que Printemps et Galeries, ils ont quand même été fermés pendant un bout de temps, et ils souffrent encore beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a une grosse partie de leur chiffre d'affaires, notamment à Paris, qui est réalisé par les étrangers, par le tourisme, qu'on n'a plus. Donc ça a été quand même un peu dur en termes de chiffre d'affaires, et un peu dur à absorber. Mais je trouve que la partie qui a été encore la plus compliquée, c'est le déconfinement, où on est déconfiné mais ça repart pas pour autant. C'est mou, les gens
tout le monde part en vacances, les gens, personne n'est revenu,
personne ne comprend trop dans quelle dynamique on est, que ce soit au bureau ou que ce soit les clients. Et je trouve que ça a été la période la plus difficile à gérer, et donc là, hâte tout simplement qu'on arrive en septembre
pour voir ce qui se passe, vraiment
ce qui se passe.
Qu'elles se sont vite mangées.
Mais le confinement a eu pour le coup du bon pour Guillaume, Thibault et moi, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à travailler sur des sujets de fond où on ne s'était pas donné le temps de travailler sur ces sujets-là
auparavant,
comme toute la réorganisation de la boîte. Donc du coup, la réorganisation des pôles, réorganiser en fait des pôles stratégiques où chaque personne dans la boîte est beaucoup plus responsable, donc des directeurs en fait pour les 6 piliers de la boîte, pour que nous on puisse se détacher plus de l'opérationnel. Et donc ça, on a passé énormément de temps là-dessus à tout réorganiser, donc c'était hyper intéressant, et c'est ce qu'on a présenté du coup sortie de confinement pour aussi essayer de redonner une dynamique à toute l'équipe en disant voilà, on a eu le confinement, on s'en est servi pour travailler sur pas mal de sujets de fond, et voilà comment en fait on va pouvoir réaccélérer demain avec cette nouvelle organisation. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus, et on a travaillé sur la refonte totale de la charte graphique et de l'identité de Monsieur Moustache, qui était un gros sujet. Mais on a travaillé là-dessus.
Juste sur la réorganisation de la boîte, les 6 piliers, c'est quoi ?
J'ai pas entendu.
Les 6 piliers, c'est quoi ?
Alors, c'est assez classique, mais la création. Donc en fait, toute la DA, la partie. Donc la création, mais la création produit style et la création DA image. Donc il y a deux personnes. Donc il y a une directrice du style, une directrice des produits, une directrice de l'image.
D'accord.
Ensuite, directrice marketing et communication.
Juste pour avoir un ordre d'idée, elle sort combien de produits par saison, combien d'images, combien de campagnes, etc.
Alors, les produits, on en sort, vendu, t'as à peu près 200 références saison, 200 références couleurs saison, elle en dessine, je sais pas, 500, 600, et on en développe 350 pour en sortir 200.
D'accord.
En gros, par saison. Donc c'est quand même pas mal de boulot, sachant que il y a plus de 50% de la collection qui est renouvelée toutes les saisons.
D'accord. Voilà,
c'était vraiment dans cette dynamique, comme je le disais au départ, de toujours apporter de la nouveauté. Comment est-ce que du coup je me renouvelle sans cesse pour pouvoir apporter une expérience intéressante à nos clients.
Ouais. D'accord.
Donc ça, c'est trois piliers sur la partie produit, style et image, un pilier sur la partie marketing, un pilier sur la partie direction commerciale.
D'accord.
Et après un pilier sur la partie gestion et finance.
D'accord, très bien.
Voilà.
Pour revenir sur l'identité de la marque, explique-nous ce que vous avez changé et comment vous y êtes pris, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se sont repenchés sur le sujet pendant le confinement.
Ça a été
c'est un vrai truc, ça.
Ça a été un vrai, vrai, vrai casse-tête. On a essayé. Déjà, en fait, quand on s'est lancé, on s'appelle Monsieur Moustache. Notre logo, c'est une petite moustache qui est présente à l'arrêt de nos produits. Et quand on s'est lancé, tout simplement, on disait que c'était la nouvelle manière de porter la moustache, c'est que la moustache maintenant se porte au pied. Et on avait choisi cette moustache à l'époque parce que c'était le symbole de l'élégance et de l'originalité.
Okay.
Et du coup, on trouvait que c'était le symbole identitaire qu'on allait pouvoir mettre à l'arrêt de nos produits. Donc ça, c'est top. Et en fait, la marque, elle s'est construite au fur et à mesure avec tous les événements qui nous sont arrivés, et on se retrouve 7 ans après avec une marque qui vend 60% de produits pour un public féminin, qui a une moustache dont on n'est plus forcément fier parce qu'on avait pris la première moustache qu'on avait trouvée, donc qui n'était pas vraiment un logo unique, qui est une moustache donc qui est identitaire mais qui n'est pas un logo très, très, enfin, super unique. Et du coup, on s'est dit, bon, ça nous convient plus. Et surtout, ce qui nous convenait plus, c'est que on s'était lancé, du coup, après pas mal de nos... Enfin, après quelques-unes de nos concurrents, mais il y a plein de DNVB qu'on explosé après. Bon, évidemment, les Cézanne, les Octobre, parmi d'autres. Et en fait, on se rendait compte d'une chose, c'est que notre manière de développer nos visuels, nos collections, au-delà même du coup uniquement du logo, c'est que tu mets 5 ou 6 marques, tu mets 5 ou 6 comptes Instagram de marques concurrentes les unes à côté des autres, t'enlèves les logos, tu sais plus qui c'est. En fait, on s'est rendu compte de ça et on s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, la base de notre marque c'est de nous réinventer, d'être différent, d'être original, et en fait, 7 ans après, on est pareil que les autres et ça nous convenait plus du tout. Et du parti de ce constat, on a essayé de travailler en interne. On n'a pas réussi et du coup, on a travaillé avec une agence qui nous accompagnait sur le sujet pendant 4 mois. Ça a été vraiment un travail de longue haleine. Refaire la plateforme de marque, la réécrire.
Ouais. La mission et toutes ces choses-là.
Exactement. Réécrire la vision, surtout, qu'on avait en tête et dont on est super fier. Notre vision, c'est Don't Worry, Be Happy.
Ouais.
C'est le truc qu'on a mis du temps
à sortir.
On a mis du temps à accoucher de cette phrase-là, mais elle reflète parfaitement notre état d'esprit et la vision de la marque.
Ouais.
En gros, t'as le côté. T'as Don't Worry parce que, en gros, notre job à nous, c'est de dire à tous nos clients, vous inquiétez pas, toutes les questions sur la qualité et la manière dont sont fabriqués les produits, on se les a posés avant vous, donc vous pouvez venir acheter les produits chez nous les yeux fermés
sereinement.
Voilà. Don't Worry, et donc ça c'est le côté Don't Worry, le côté Be Happy, parce qu'en fait on a envie de juste que les gens kiffent, tu vois, qu'ils aient un gros smile quand ils viennent s'acheter une paire de chaussures, et qu'ils aient un gros smile parce qu'ils sentent qu'ils sont pas coupables en venant acheter un produit, parce que notre produit il a été bien fait, et surtout parce que c'est notre manière de le vendre aussi demain en boutique, et l'expérience client qu'on a envie de proposer, c'est juste du kiff. Parce que aussi tout l'univers dans lequel on est en train d'évoluer depuis quelques temps, et notamment avec le Covid, c'est un peu morose. Et juste nous, notre rôle en tant que marque, c'est de donner la pêche aux gens.
Entertainment, oui.
Ouais, exactement.
Très bien.
Donc voilà. Et donc ça, plateforme de marque et charte graphique. Et ça a été 4 mois de boulot et 4 mois de vrai travail très très profond sur même soi-même.
Ouais.
Parce que tout part des fondateurs,
de ses tripes,
et tout part de soi, et tout part de ses tripes, de savoir ce qu'on va vouloir faire vivre au client, ce qu'on va vouloir lui dire, comment on va être différent de la concurrence, comment est-ce que cette différence elle va tenir sur le long terme, comment est-ce que dans un an on se retrouve pas noyé encore dans la masse, et donc du coup changer toutes les couleurs. Maintenant nos couleurs c'est du vert, du moutarde et du rose, le rose qui est une de nos couleurs principales. Donc voilà, comment est-ce que avec ce coloris là je viens me différencier, mais pour autant je perds pas tous les clients à qui je parle depuis 7 ans. Donc ça a été un gros projet, des gros enjeux, et donc cette plateforme de marque on l'a lancée le mi-août. Et elle a été très bien reçue par nos clients, donc on est ravis.
Cool.
Et donc du coup maintenant
c'est une petite descente d'organes supplémentaire.
Ouais, parce que tant qu'on le pousse pas, c'est comme tout,
Et
un projet, tant qu'on le met pas, tant qu'on le confronte pas et tant qu'on tire pas à balles réelles, on sait pas ce qui va se passer, quoi.
Trop bien. Une question, je trouve, qui est importante, c'est comment tu alignes, toi, tes envies personnelles avec les envies de la boîte, enfin avec le projet. Surtout, vous êtes 3. Comment vous faites,
Alors,
c'est quoi tes envies, toi? Enfin, déjà, parle-nous de tes envies peut-être personnelles.
Alors, même avant de parler de mes envies personnelles, je reviens juste sur le fait d'être 3, parce que c'est un sujet chez nous, parce qu'évidemment on est 3, mais ça a été un sujet en fait dès le départ, parce que on s'est fait accompagner beaucoup par le réseau Entreprendre, par donc le réseau Entreprendre Paris et par les incubateurs avant, et tout le monde nous disait une association à 3 ça marche jamais, ça ne fonctionne jamais.
Ouais, tout le monde le dit.
Ouais, parce qu'en fait il y en a toujours un qui est mis de côté sur un sujet et ça fonctionne jamais, et nous au contraire ça fonctionne super bien, et c'est justement parce qu'on est 3 que ça fonctionne bien, parce que c'est toujours 2 contre 1, et dès qu'il y a une décision importante à prendre, qu'on s'assoit, qu'on n'est pas tous d'accord, il y en a toujours au moins 2 qui sont d'accord, et ça nous permet d'avancer et de pas avoir des situations bloquantes, et de trancher. Donc ça, c'est génial. Et pour revenir du coup sur la question de mes envies personnelles, moi, l'envie tout simplement personnelle que j'ai, c'est de, enfin, toujours la même depuis le départ, mais c'est d'entreprendre, de développer des projets, des nouveaux projets en permanence. Lancer la marque, lancer la ligne féminine, demain le lancement de notre semelle récolte. On en parlera peut-être après, mais voilà. C'est ces projets-là vraiment qui m'animent au quotidien, et c'est le fait de pouvoir me lever le matin avec la banane, parce que je sais qu'on va essayer d'inventer de nouvelles choses et de repenser la manière dont les choses ont déjà été faites auparavant.
Mais pourquoi tu fais les choses ? C'est quoi ton pourquoi profond ? T'as dû te le poser cette question, non ?
Le pourquoi profond, c'est juste proposer à travers la marque et à travers les produits qu'on fait les idées qu'on a en tête, tout simplement. Et je parlais tout à l'heure du Don't Worry Be Happy, c'est juste kiffer la vie, en fait.
C'est aussi simple que ça, bien sûr.
Juste ça, quoi.
À la fin, c'est ça, hein, c'est avoir une vie épanouissante.
Avoir une vie épanouissante et une vie équilibrée, surtout entre le pro et le perso, où le pro vient pas non plus trop empiéter sur le perso pour pouvoir être suffisamment équilibré et pour pouvoir passer des moments en famille et pour pouvoir aller surfer et faire du kite quand les conditions sont bonnes, quoi.
Ouais. Bien sûr. Of course, on est tous au même niveau.
Ouais, je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord.
On est d'accord. Parlons de la suite des événements, parce que, vous êtes pris comme tout le monde, on s'est pris tous une grosse claque avec le Covid. Il n'empêche que, on est tous des grands optimistes et on a envie que ça continue et qu'on avance. C'est quoi les projets à venir et la vision que vous avez, peut-être même à plus long terme aussi pour Monsieur Moustache ?
Nous, en fait, ça fait 18 mois chez Monsieur Moustache qu'on a lancé un programme qui s'appelle Encore, qui est en gros avec un objectif, c'est de remettre le recyclage en fait au cœur de la marque et au cœur de la production.
C'est quelque chose qui était ancré dès le départ, cette dimension sustainability.
Alors, depuis le départ, c'est des questions qu'on se posait, mais en fait, on voulait surtout pas que notre marque soit une marque qui soit posée que sur du sustainability. Ça, c'était vraiment hyper important pour nous. C'est de se dire, en fait, notre marque, elle va exister parce que les produits et l'univers qu'on va proposer, il va correspondre à nos clients. Ouais. Et en fait, les clients vont venir l'acheter pour ça. Et une fois qu'on aura installé la marque, alors on se penchera sur le projet, sur le sujet sustainability. Et surtout, une fois qu'on aura compris tous les travers de l'industrie de la chaussure, parce que c'était une industrie qu'on connaissait pas, on maîtrisait rien à l'époque. Et voilà, une fois qu'on maîtrisera tout ça, une fois qu'on comprendra en fait quels sont les travers, là on va pouvoir venir proposer des choses. Et là, on commencera à se mettre en ordre de marche pour pouvoir proposer quelque chose de différent.
Et donc, time has come.
Exactement, et en fait c'est venu même il y a 18 mois où en fait le premier sujet ça a été de se dire à nos yeux on consomme énormément de paires par an et par personne en France. En France on consomme quand même 6 paires de chaussures par an et par personne. C'est monstrueux, c'est un des plus gros marchés au monde. Et donc
c'est
ça,
incroyable.
Non, mais c'est incroyable, c'est monstrueux.
Ok, donc il y a un vrai marché.
Non mais c'est un des plus gros marchés par
c'est
personne.
C'est fou, d'accord. 6 paires de chaussures par an et par personne en France.
Exactement.
Donc ça fait 70 x 6.
Exactement.
Ça fait pas mal de chaussures.
Ça fait un paquet de chaussures. Et le sujet, surtout, ça a été que une fois qu'on a vu ça, on s'est rendu compte que plus de 90% des chaussures, elles finissent à la poubelle. Donc les gens, assez naturellement, tu vois, t'achètes ta paire de pompes, t'as une vieille paire de baskets qui traîne, qui est un peu flinguée, qui est trouée à l'intérieur, vas-y poubelle, et puis je vais en arracher une autre. Et donc du coup, il y a un an et demi, on se dit, ok, la première chose, c'est qu'il faut qu'on éduque nos clients. Nous, en tant que marque, en fait, on doit être responsable de la fin de vie des produits. Donc en fait, à chaque fois qu'on vend une paire de Monsieur Moustache, ça doit être automatique, on doit récupérer une paire de chaussures, peu importe la marque, tu vois. Et en fait, cette paire, on va trouver une solution pour lui redonner vie, mais c'est l'objectif d'une marque, et surtout pas l'objectif mais le rôle de notre marque et notre mission, ça doit être d'éviter de polluer, évidemment quand on produit, mais avant même de produire, il faut juste trouver et proposer une solution pour la fin de vie des produits. Donc pendant un an et demi, à chaque fois qu'il y a une personne qui entrait dans la boutique, on leur demandait s'ils n'avaient pas une paire de chaussures usagées à nous rapporter pour qu'on les collecte, tout simplement. Et du coup, depuis un an et demi, on a collecté 3000 paires dans nos boutiques. Et donc du coup, on s'est dit bon bah maintenant qu'on a collecté des chaussures, on va se gratter la tête pour savoir ce qu'on va en faire, parce que c'était pas évident. Donc on a rencontré pas mal de partenaires, notamment un partenaire en Allemagne qui avait développé une machine pour transformer ses chaussures, mais dans du matériel d'isolation, donc et dans de l'énergie, donc tout simplement ça, il est cramé majoritairement. Et on a fini par rencontrer un de nos partenaires au Portugal, qui est un partenaire avec lequel on faisait des semelles, qui a développé une solution qu'il a mis 15 ans à développer. Donc le mec est quand même un acharné, et il était convaincu qu'il arriverait à ses fins. Et avec lui, en fait, on arrive en fait à transformer ces paires qu'on a collectées en semelles. Donc en fait, on réinjecte l'ensemble des chaussures qu'on a collectées, et je viendrai après sur la manière dont ça se passe, mais elles finissent à la fin dans des nouvelles semelles, donc cette semelle qu'on a appelée récolte, parce qu'on récolte évidemment les chaussures et c'est la source même de la production. Mais du coup, ça, c'est un sujet sur lequel on s'est penché pendant 18 mois, et là on est super content du coup de pouvoir lancer ça en septembre.
C'est ouf. Qu'est-ce qui a été en charge de ce projet-là dans la boîte?
C'est Thibaut. Ouais. C'est Thibaut. Alors sur la partie réflexion produit, c'est nous trois et puis surtout toute la boîte où on se pose régulièrement des questions. Mais c'est Thibaut qui a été chercher les partenaires, qui a été les rencontrer, qui a réussi à mettre au point le produit, parce que Thibaut, il est en charge du produit et de la marque.
D'accord.
Ouais, ça j'en ai pas parlé au début, mais en gros, dès le départ, nous trois, on s'est divisé
les tâches.
Ouais. Et c'est ce qui permet de jamais se marcher dessus. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Thibaut, il est en charge de la marque et de la communication. Guillaume, il est en charge de la partie prod, sourcing, logistique. Ouais. Et moi, je m'occupe de la partie commerciale et marketing opérationnel, en gros.
D'accord, ok.
Et
pourquoi c'est toi qui prends la parole?
Parce que pareil, en fait, faut se diviser les tâches.
Et c'est toi qui prends la parole sur tous les...
On s'est posé beaucoup la question. C'était soit Thibaut, soit moi. Et là, ce coup-ci, c'est moi qui prends la parole, et Thibaut ou Guillaume pourrait être amené à prendre la parole la prochaine fois.
D'accord.
Et en fait, souvent aussi, c'est de mon parcours financier, c'est souvent moi qui prends toutes les paroles sur les pitchs avec les investisseurs et les fonds.
C'est toi qui es peut-être le plus à l'aise ou...
Pas forcément, mais c'est un exercice que j'ai eu l'habitude de faire avec les pitchs, avec les fonds, et donc du coup, voilà, c'est assez naturellement qu'on s'est dit ça ce coup-ci.
D'accord, très bien. Revenons sur récolte. Comment ça se passe concrètement? Parce que, transformer 3000 paires en semelles, explique-nous un petit peu le processus.
Ouais, bon alors l'idée de base, c'était de faire des chaussures à partir de chaussures, donc shoes made from shoes.
Ouais.
Et donc du coup, la première étape est simple, donc on collecte les paires de chaussures dans nos boutiques.
Ouais.
Une fois qu'on a collecté ces chaussures, elles partent au Lude. Au Lude, en fait, c'est une petite bourgade dans la Sarthe qui est très sympathique. En fait, c'est notre entrepôt, notre logisticien. Là, on va trier toutes les paires. Les paires qui sont encore en état d'usage, on les met de côté et on les offre à des assos comme les Restos du Cœur.
D'accord.
Donc, on fait des dons à différentes associations pour toutes celles qui sont encore en état d'usage, parce qu'on va pas les mettre à la poubelle, on va pas les broyer, évidemment. Et les autres paires, on les envoie chez notre partenaire au Portugal. Et en fait, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est que c'est toute, en fait, la chaussure. Avant de rentrer dans un broyeur, on va lui enlever tous les œillets, toutes les parties métalliques, parce que sinon ces parties métalliques, en fait, elles vont abîmer les machines. Ensuite, ça s'est broyé plusieurs fois pour obtenir une poudre qui ressemble à du sable. Donc c'est vraiment très très fin. Ensuite, cette poudre, on va la passer dans un gros four. Et ce four, en fait, ça chauffe à haute température. Et ça, c'est pour enlever tous les produits chimiques, tous les solvants qui peuvent être contenus dans les chaussures, donc dans les cuirs, tous les tanins, voilà, tous les trucs pour tout simplement avoir une poudre qui soit excessivement propre et prête à l'usage. Et ensuite, cette poudre, on va la passer dans des presses. Pareil, une cinquantaine de fois, dans des gros rouleaux. Et ces gros rouleaux vont sortir une plaque. Et c'est cette plaque, en fait, qui va être réintroduite derrière. D'accord. Dans les moules des semelles.
D'accord. Et on réinjecte une matière vierge.
Exactement. En fait, ces plaques, elles vont être mélangées avec une autre plaque qui est fabriquée à partir de caoutchouc recyclé.
Ouais.
Le caoutchouc recyclé, en fait, c'est toutes les chutes de caoutchouc qu'on a quand on fabrique nos semelles. Il y a un peu trop de caoutchouc qui est injecté dans les moules.
C'est pré-consumer. Ouais.
Exactement. Donc du coup, ça, tout ça, on le récupère, on le mélange avec les chaussures recyclées, et en plus, on injecte 30% de caoutchouc naturel. Donc qui est issu d'arbres, et ces 30% de caoutchouc naturel nous permettent d'assurer une stabilité du caoutchouc qu'on va produire à la fin.
D'accord.
Avec les chutes de caoutchouc et avec les chutes de chaussures.
Très bien.
Et donc du coup, c'est tout ça qui nous permet, en injectant dans la chaussure, en injectant dans le moule de chaussure, de sortir une semelle qui est fabriquée à partir de chaussures recyclées.
Trop
bien. Le processus.
Et ça fait un produit qui est aussi qualitatif que...
Ouais, ça fait un produit qui est aussi qualitatif que celui qu'on avait avant.
Bien sûr.
On l'a tous testé et c'est un produit qui est très qualitatif parce qu'effectivement, c'était des gros risques de se dire on va switcher près de 60% de notre collection de baskets. Mmh. Parce que l'idée, pareil, c'était de se dire on ne veut pas du tout essayer de rentrer dans du greenwashing ou de se dire on va sortir une collection de capsules avec deux références sur lesquelles on va mettre toute la com et se dire maintenant on fait des chaussures recyclées. Ouais. L'idée, c'était de se dire non, on va le faire en profondeur, il faut qu'on le fasse sur toute la collection. Demain, une personne qui vient chez Monsieur Moustache va se dire ok, en fait, le produit, il est vraiment bien réfléchi et il a l'impact, il a le minimum d'impact
possible, ouais.
Exactement sur la planète.
D'accord.
Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on le lance massivement sur la collecte.
Très bien. Comment vous avez orchestré ce lancement, justement ?
C'est une bonne question. Plusieurs sujets. On prépare mon shooting et campagne d'acquisition sur Facebook, Instagram, sur les réseaux assez traditionnels.
Vous avez commencé là ? Pas encore.
Non, le lancement il se fait le 1er septembre. Ouais, il se fait le 1er septembre. Et là, on a commencé à teaser sur Instagram gentiment pendant une semaine.
Ouais.
Pour voir
comment ça réagit.
Ouais, et puis voilà.
Ça réagit bien.
Ça réagit plutôt bien. Après, voilà, c'est juste de se dire. Tu vois, de donner les chiffres, de se dire qu'en France, on consomme 350 millions de paires par an. Donner des chiffres. Qu'il faut comprendre aux gens qu'on consomme énormément, mais que la fin de vie des produits n'est pas forcément gérée, n'est pas forcément traitée.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout est parti, enfin, tout part soit en enfouissement, soit cramé, quoi.
Ouais, enfin, il y a une partie qui finit dans les bornes de collecte.
Ouais.
Donc, ça, il y a une partie, mais c'est 3%.
Ouais, c'est rien.
C'est rien, quoi. Enfin, il y a 3%, en fait. Il y a 3% des paires en France qui sont recyclées.
Mm.
Mais c'est que dalle.
Ouais.
Donc, voilà. Enfin, vraiment.
Et dans le vêtement, c'est exactement pareil. Hein, c'est le même problème, ouais. Donc
ça, on l'orchestre comme ça et après on fait pas mal on aura pas mal de presse aussi pour le lancement et via aussi beaucoup des influenceurs et des instagrammeurs avec qui on travaille depuis un moment.
Trop bien.
Voilà.
Juste avant de revenir sur la stratégie d'acquisition, etc., parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, forcément, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. La vision, enfin le chiffre d'affaires, où est-ce que vous voulez emmener cette boîte, quoi ? J'ai l'impression que vous êtes très ambitieux tous les trois, quoi. Vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, quoi.
Non, ouais, on sait qu'il y a beaucoup de place. Enfin, c'est ce qu'on se dit, même s'il y a une concurrence qui est forte, on sait qu'il y a beaucoup de place parce que ce marché vieillissant dont on parlait au départ, c'est encore le cas aujourd'hui, même s'il y a
toujours,
plein de DNVB qui se sont montés et qui fonctionnent. En fait, il y a encore énormément
de place.
Et donc, du coup, on sait qu'on peut continuer à accélérer. Et du coup, dès que on ira un peu plus de visibilité sur la reprise de l'activité économique et de la fin du Covid, notamment pour le retail, l'idée c'est d'ouvrir très rapidement toutes les grandes villes qui nous manquent. Donc aller ouvrir Lyon, aller ouvrir Lille, aller ouvrir Aix-en-Provence, aller ouvrir Rennes, voilà, ouvrir toutes les villes qui nous manquent et d'aller chercher rapidement 25 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et en ouvrant aussi dans des pays sur lesquels ça fonctionne bien, comme en Suisse ou en Belgique, en ouvrant une antenne, en ouvrant une boutique à Bruxelles rapidement. Donc ça, voilà, c'est horizon 3-4 ans. On se voit bien ici. Et
après, vous faites quoi ?
Après, c'est une vaste question, mais soit on a toujours autant la niaque et surtout on sent qu'on est capable de porter le projet un peu plus loin et on sent qu'on a les épaules pour en faire une marque européenne. Et donc du coup on refait exactement la même chose
pays par pays.
En Allemagne, au UK, pays par pays, dans des pays qu'on aura ciblés. Et je pense que ce sera le cas, ou soit on sent qu'on arrive un peu à bout de souffle et qu'il y a des gens beaucoup plus compétents pour nous que nous pour aller faire du développement international et du coup on se mettra peut-être un petit peu en retrait. Voilà, pour l'instant
c'est dur de se projeter.
J'avoue que je suis incapable de répondre à cette question et on en parle assez régulièrement avec Thibaut Guillaume, mais aucun de nous trois est capable de se dire. Ce qu'on sait, c'est que là on est pleine balle à 200%.
Et puis surtout, vous êtes des gamins, quoi. Vous avez 30 piges.
Voilà, on a 30 balais, donc voilà, on avance à fond. Et puis
vous poserez les questions un peu plus tard.
On sait exactement où on veut aller, on sait ce qu'on a à faire pour amener la boîte là où on veut l'emmener. Après, si on a encore d'autres idées et qu'on sent qu'on a les épaules, on ira. Et puis si on sent qu'il y a des gens mieux que nous pour le faire, on leur dira allez-y les gars et bon courage.
Parlons acquisition, parce que c'est quand même le nerf de la guerre à notre époque. explique-nous l'organisation de votre service d'acquisition. Alors, après l'acquisition, elle se fait en ouvrant une boutique, elle se fait via le wholesale, via Facebook et Instagram, les influenceuses, via les RP.
Ouais.
Explique-nous tout ça, comment
vous organisez. Il y a encore un an et demi, on avait un budget marketing qui était en fait le budget acquisition et qui était en fait le seul budget acquisition Instagram, Facebook, retargeting et Google. Mm. Qui fonctionne bien et qui fonctionne toujours bien parce que on a une personne qui chapeaute ça chez nous, Samira, qui gère ça d'une main de maître, donc ça tourne bien. Mais on s'est rendu compte assez rapidement aussi que ça a beaucoup de limites, c'est-à-dire que tu peux pas, si tu as 10 000 euros de budget, tu peux pas mettre 30 000 euros l'année d'après et te dire que tu vas pas dégrader ton marketing. Évidemment, tu dégrades ton marketing si tu fais uniquement Facebook, Insta.
C'est-à-dire quoi dégrader son marketing?
C'est-à-dire que là où ton coût d'acquisition par client il pouvait te coûter 4 euros, il te met à coûter 5 euros, puis 6, puis 7. Et en fait, du coup, c'est plus du tout rentable de pousser autant tes campagnes que tu les poussais avant. Et donc du coup, l'année dernière, on a pris la décision de diversifier complètement le budget d'acquisition marketing et que ce budget d'acquisition marketing, ce budget marketing, il soit divisé en différents segments et qu'il y ait un segment du coup pour du Facebook, Insta, un segment pour du Google, un segment pour du retargeting comme on faisait avant, mais qu'il y ait aussi une grosse partie qui soit mise du coup pour des influenceurs. Donc pour des Instagrammeurs, avec un vrai budget dédié, avec un objectif par Instagrammeur à chaque fois qu'on va prendre la parole avec un Instagrammeur, et avec une sélection aussi de personnes avec qui on a envie de prendre la parole, de savoir avec qui on va prendre la parole quand on a envie de faire du branding, avec qui on prend la parole quand on a envie de faire du commercial. Donc vraiment avoir une stratégie ultra globale là-dessus qui est définie et dessinée avec un plan média en amont.
Comment vous êtes fait accompagner là-dessus?
On fait ça en interne.
Faites vos propres sélections
sur la sélection des ça on s'est fait accompagner, on a fait en interne et avec l'agence donc ça pareil, c'est un ping-pong de se dire voilà, je pense que cette personne est bien, non il y a celle-ci. Les agences souvent elles sont intéressantes là-dessus parce qu'elles ont un feedback
avec
les autres marques et surtout elles ont déjà bossé avec pas mal d'instagrammeuses, elles sont capables de se dire cette personne-là elle va vraiment s'investir quand elle va faire un post, alors que celle-ci elle fait un post et puis demain pour reparler de toi ça va être un peu compliqué. Donc ça c'est les principaux piliers du budget marketing et le dernier qui est aussi tout aussi important c'est la presse et les médias, et donc du coup c'est d'essayer de prendre la parole beaucoup plus régulièrement dans de la presse avec des vrais budgets dédiés là où historiquement on l'avait fait au lancement, de prendre une agence de presse avec des budgets pour de la presse et en fait on trouvait ça hallucinant les budgets que ça demandait pour le pot de retombées qu'on avait. Donc du coup ça on l'avait complètement arrêté. Mais en fait arriver à un certain niveau je trouve d'acquisition et de budget marketing c'est nécessaire d'en mettre pour la presse parce que ça devient finalement c'est un grand mot rentable et je devrais pas utiliser ce mot là mais ça devient plus intéressant d'utiliser du budget sur de la presse que de pousser tout en budget d'acquisition pur sur les réseaux.
Tu développes ta notoriété quoi et...
Ouais, tu développes ta notoriété et surtout tu développes un canal et tu parles à des clients, tu parles à une audience auquel t'as pas accès quand tu fais Facebook Ads.
Quand tu parles de budget influenceur, c'est quoi? C'est de la dotation produit ou ça va plus loin que ça? C'est vraiment rémunéré?
Il y a un mix, ça dépend. On rémunère certains influenceurs et d'autres qu'on rémunère pas, ça dépend. Du nombre de likes et de la capacité à reacher des différents influenceurs. Donc ça dépend. On parle d'une influenceuse qui a plus de 150 000 followers à qui on va demander de faire un post et une story, évidemment de toute façon il va falloir la rémunérer. Et après c'est de voir comment on peut faire pour que ça nous coûte le moins cher possible. Est-ce qu'elle va bien vouloir travailler avec nous? Monter à chaque fois un dossier pour lui présenter l'opération, pour la convaincre et pour être sûr qu'elle soit capable de nous accompagner, de nous suivre demain. Donc c'est quand même énormément d'énergie. C'est énormément d'énergie
et un retour sur investissement dont vous êtes satisfait aujourd'hui?
je pourrais te dire ça dans 6 mois parce que c'est la première année où on, enfin c'est là, là à partir de septembre c'est la première fois où on va débloquer autant de budget sur ces influenceurs et au global sur cette stratégie marketing. Et donc du coup je pourrais dire dans quelques mois si ça fonctionne correctement. Mais ce qui est sûr c'est qu'on sait qu'on avait atteint nos limites en acquisition pure et donc du coup c'était le moyen de se diversifier et le moyen qu'on trouvait le plus intelligent. Après on verra si Damien nous dira si on a raison.
Dans tous ces outils d'acquisition, à quel moment dans l'histoire de Monsieur Moustache vous êtes dit putain on a pété le code quoi?
Je crois que c'est que quand on a, j'en suis même sûr, c'est quand on a recruté une personne qui était douée en acquisition, voilà, qui connaissait son métier.
Ouais.
Et,
ouais, parce qu'avant vous le faisiez tout seul.
Et puis surtout on maîtrisait pas le sujet, donc il y a plein, enfin c'est quand même un vrai métier, c'est un truc sur lequel il faut être formé et faut être affûté. Et du coup quand on a une personne formée affûtée qui est arrivée, bah ça a été le jour et la nuit.
Clairement.
On a fait un gros bond en e-commerce. Et
si c'était à refaire tu referais?
Clairement.
Et donc ça veut dire que vous avez recruté quelqu'un en interne pour faire ça ou vous avez fait appel à quelqu'un?
Non, quelqu'un en interne.
D'accord.
Quelqu'un en interne.
Donc c'est un super gros investissement quoi.
C'est un investissement.
Ouais. Et comment vous êtes sûr que le mec est très bon?
C'est simple. Hein.
Vous voyez vite.
Quand au bout de 2 mois, t'augmentes de 30 ou 40% ou 50% ton chiffre d'affaires, alors que t'as pas forcément augmenté énormément tes budgets,
t'as compris
que ça fonctionnait mieux. Quoi.
Mm-hmm. Très bien. Dans votre histoire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelles sont les erreurs que vous avez faites d'après toi?
On en a fait énormément. Tu vois, je te parlais de la première heure où on avait commandé autant de paires de chaussures en bleu marine qu'en brun, qu'en bleu ciel. Bon, voilà, erreur magnifique. Mais bon, je sais pas si on ferait un. Enfin, il y a plein d'erreurs qu'on a commises et on s'est dit merde, putain, mais c'est pas possible. Comment on a pu faire un truc pareil? On est débiles. Et pour autant, ça nous a beaucoup appris. Et je pense qu'on ferait pas grand chose. Je pense qu'on ferait pas grand chose différemment. Je pense qu'on ferait pas grand chose différemment parce que chaque erreur c'est un apprentissage. Et je pense que tous les entrepreneurs nous diront la même chose, mais le fait de se planter et le fait de bien se planter, ça permet de bien se rappeler le moment où on est confronté à la même situation qu'il faut pas faire l'erreur. Et je pense qu'on ferait exactement la même chose.
Ouais, les grosses boulettes qui vous ont mis en danger à part donc cette première, c'était quoi?
Je pense que c'est pas forcément une boulette, mais je pense qu'au début on jouait un peu trop avec le feu sur le cash. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de prendre beaucoup de risques, donc du coup on tirait énormément sur le cash au point où 2 ans et demi après le lancement, 2 ans après le lancement, et je me rappelle comme si c'était hier parce que je l'avais noté, je m'étais fait un mail pour me rappeler de la situation pour plus tard si jamais ça fonctionnerait. On s'est retrouvé dans une situation où on avait plus de cash et on avait 15 jours pour faire une levée de fonds. Pour trouver 120 000 euros. Autrement, la boîte partait au tapis parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour financer les prods et derrière c'était fini quoi. Et donc du coup ça on s'est mis beaucoup en danger. Après voilà, la question que je me pose c'est est-ce que si on n'avait pas été à ce point en danger, on aurait été aussi bon dans les meetings qu'on a fait avec les gens pour les convaincre de nous suivre dans l'aventure. Et donc du coup on a réussi à trouver 120 000 euros en 15 jours avec du friends and family où il y a des gens qui sont sortis de nulle part et qui ont été capables de mettre des tickets de 20 000 euros. Donc est-ce qu'on referait la même chose? Je sais pas, voilà. Ça c'est pas forcément une boulette, mais c'était un gros risque et c'est peut-être un risque inutile parce que ça a généré quand même beaucoup de stress à cette période-là et c'est un stress qui était pas forcément positif et ça permettait pas de se concentrer sur le pur business.
Donc qu'est-ce que tu ferais différemment?
Donc prendre peut-être un peu moins de risques sur les levées de fonds et les cash.
D'accord.
Ce qu'on a fait par la suite.
Ouais. Ça veut dire que vous gardez un petit matelas,
garder plus de sécurité sur la trésor. Et en fait, je trouve que cette sécurité, tu la prends au fur et à mesure que ton équipe grandit. Et tu la prends surtout pour tes salariés, surtout pour ton équipe, tu la prends pas pour toi. C'est-à-dire que tu te dis demain, là, je suis responsable de 30 personnes et on peut pas se permettre
de pas les payer ou d'être dans la merde.
On peut pas se permettre d'être short cash parce que en fait on a voulu aller trop vite et on a voulu ouvrir une boutique de plus. Et c'est vraiment, je pense, pour ton équipe que tu prends ces précautions.
Très bien. Sur la production, tu disais que tu avais fait, vous avez fait beaucoup de bêtises. Enfin, vous avez beaucoup appris, vous apprenez toujours. Pareil, ça, si c'était à refaire, comment vous le tacleriez le truc? Parce que c'est vrai que la chaussure, c'est je crois que c'est un des produits les plus compliqués, quoi.
Ouais, bah en fait, je crois, enfin, si c'était à refaire, ce serait apprendre avant de se lancer.
Apprendre avant de se lancer.
Ouais, bah, enfin, surtout sur la chaussure.
Ouais.
Apprendre en profondeur les cuirs, le tannage, ouais. les différences de cuir, la tenue des différents matériaux, apprendre la construction de toutes les chaussures, apprendre les capacités d'abrasion d'une semelle en cuir, d'une semelle en caoutchouc, d'un TPU, d'un EVA, enfin voilà, tous les trucs un peu techniques, tout apprendre, tout connaître, passer 6 mois dans une usine au Portugal. Ça, je pense que ça aurait été excessivement bénéfique pour un mec qui veut se lancer. Voilà, tu prends 6 mois à Airbnb et tu vas te taper de l'usine, tu vas sur toute la chaîne de montage, tu prends les chaussures dans les mains, t'apprends et à la fin tu sais faire une chaussure de A à Z. Bah après t'es incollable et t'es imbattable, et c'est ce qui te permet de gagner beaucoup de temps, parce que quand tu vas être confronté à un directeur d'usine qui te dit c'est pas possible ou on sait pas faire, ouais, ou ça coûte trop cher, voilà, au moins tu maîtrises le sujet, et tant que tu maîtrises pas, en fait, bah tu peux pas être bon sur la qualité ou même sur la partie commerciale.
Est-ce que ça, à un moment donné, ça vous a mis en danger, tu penses, ce manque de compétences et de savoir-faire?
Ouais, clairement, ouais, parce qu'on s'est retrouvé avec aujourd'hui, tu vois, on a un peu moins de 200 références par saison, donc quand t'as un problème sur 5 références, c'est pas très grave. À l'époque, quand t'as 15 références, t'en as 5 qui sont livrées avec un problème et qui sont livrées dans ton entrepôt au LUD, et que tu t'aperçois au LUD, au moment où tu dois livrer tes clients,
que c'est pas bon,
bah là t'es pas bien là.
Tu fais quoi?
Et tu sais qu'il te faut un mois et demi pour réparer, bah tu
appelles tes clients et tu dis
ça va être livré en retard, donc est-ce que vous prenez, est-ce que vous prenez pas, tu fais des remises, t'essayes de trouver des solutions pour pouvoir conserver ton client, et que in fine il faut trouver que ton client il ait quand même le produit au pied, parce que c'est quand même ce qu'il voulait à la base, donc il faut trouver des solutions pour ça. Mais ouais, ça te met quand même en danger.
Ouais, ça te met en danger, puis ça te prend une énergie de fou que tu dois mettre ailleurs, quoi.
Ouais, bah déjà tu vas t'amuser à ouvrir les 2000 boîtes de produits défectueux pour identifier quels sont les produits défectueux à l'intérieur des 2000 boîtes.
Ouais, c'est envoyer. Le truc que t'as pas envie de faire.
Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, bien. En fait, très très bien maîtriser le domaine et l'industrie dans laquelle tu travailles, c'est évident que c'est important si tu veux aller vite. Et c'est nous ce qui nous a empêchés à certains moments d'aller un peu plus vite ou de proposer la qualité qu'on souhaitait à nos clients.
Et dans le recrutement des gens que vous avez fait, on l'a fait très rapidement et on n'est même pas revenu sur tes cofondateurs. C'est peut-être dommage de peut-être expliquer ce qu'ils font. Tu nous l'as dit, mais d'où ils viennent. Enfin, ils viennent de la même école que toi, finalement. Ouais. Mais qui ils sont, et surtout les premières personnes que vous avez recrutées en plus de vous trois.
Ok. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'on a. Bon, on se ressemble beaucoup avec Thibaut et Guillaume. Guillaume, il a vécu et grandi à Boulogne-Billancourt, donc pareil en région parisienne, qui est mitoyen avec Meudon. Et Thibaut à Issy-les-Moulineaux. Donc voilà, on a vécu clairement à peu près, à peu près on a vécu la même enfance.
Ouais.
Ils ont eu un parcours similaire au mien, donc collège, lycée, et on s'est retrouvé en école de commerce. Et ce qu'ils font, bah, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. La deuxième question, c'était quoi?
C'était les premiers recrutements.
Ouais. Alors les premiers recrutements, c'est très marrant parce que la première personne qu'on a recrutée, c'est un graphiste, parce que c'est des compétences qu'on n'avait pas. Donc tout de suite, en fait, on essaie de recruter des choses qu'on ne sait pas faire. Le deuxième recrutement, ça a été un styliste en interne. Pareil, parce que en fait, nous, on sait
ce que vous aimez.
Voilà, on sait ce qu'on aime, et puis en fait, on analyse beaucoup le marché, on regarde ce qui se fait ailleurs, on sait ce qu'on a envie de pouvoir proposer à nos clients, on sait ce qu'il y a dans les collections, mais en fait, on ne sait pas les dessiner, et voilà, il faut que quelqu'un, effectivement, prenne la plume et dessine ses collections. Donc, du coup, ça a été le deuxième recrutement, et bah, c'est un recrutement qui est toujours effectif et qui est toujours présent, et la styliste, maintenant, Charlotte, qui fait un merveilleux travail, elle est présente depuis. Depuis 5 ans maintenant chez Monsieur Moustache.
Ouais.
Donc ça a été graphiste, styliste, ça a été les premiers recrutements. Et après, ça s'est étoffé avec des commerciaux. Parce que bah, on pouvait plus passer notre temps à faire le tour de la France, parce que ça prenait énormément de temps. C'était ultra chronophage. On partait pour 6 semaines avec les valises dans le coffre, et hôtel Ibis ici, hôtel Ibis là-bas. Et quand tu te retrouves après 3 semaines tout seul à Brest,
ouais, c'est hardcore.
En hiver, parce qu'en été ça va, il y a du monde, mais l'hiver, c'est pas cool.
Ouais.
Du coup, ça a été très vite une équipe commerciale, donc un commercial, puis deux commerciaux pour pouvoir prendre le relais là-dessus. Et puis au fur et à mesure, après, le développement de l'équipe, c'est juste quelles sont les tâches où j'estime que j'apporte vraiment au quotidien. Donc on se pose la question avec Thibaut et Guillaume. En gros, c'est quoi tes domaines d'expertise et là où vraiment t'apportes au quotidien et quelles sont les tâches sur lesquelles tu passes un temps fou et en fait
où t'as pas beaucoup de valeur ajoutée.
Ouais, on a aucune valeur ajoutée. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous et beaucoup plus rapidement. Donc en fait, c'est la prochaine embauche.
Ouais. Et aujourd'hui, vous servez encore à quelque chose? Non, parce que vous commencez à avoir beaucoup de salariés.
Tu te dis
vous êtes soulagé de beaucoup de choses.
C'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question et je trouve que c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet de remise en question au quotidien dans une boîte quand elle grandit. C'est maintenant je fais quoi? Donc on n'en est pas là, mais le gros sujet de réorganisation qu'on a fait pendant les vacances, c'était aussi de savoir, enfin pendant les vacances, pendant le confinement. Putain.
Gros lapsus.
C'est te dire si mes vacances sont travaillées. le gros sujet qu'on a fait pendant la réorganisation pendant le confinement, c'est que on a passé pas mal de temps à se dire voilà, en fait, déjà c'est quoi ce que j'ai envie de faire moi au quotidien, c'est quoi ce sur quoi j'apporte, et aujourd'hui on fait encore beaucoup trop d'opérationnel par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir faire. Et en fait, le gros sujet, c'est comment est-ce que tu sors de l'opérationnel, comment est-ce que tu sors de l'opérationnel pour que ce soit beaucoup plus fluide pour tes équipes, pour empêcher d'être bloquant. C'est un gros sujet chez nous, tu vois, c'est de se dire en fait...
Et comment tu penses que vous allez y arriver?
En fait, c'est en nommant des directeurs de pôle qui ont les mains libres sur les prises de décision au moment où il faut les prendre.
Ouais.
Et en fait, que ces gens-là soient conscients que la responsabilité
elle est énorme.
Elle est énorme, mais surtout, elle est dans leurs mains. Et du coup, la décision à prendre, ils la prennent et ils ne viennent pas nous demander si c'est bon ou si c'est pas bon.
Et ça, vous arrivez à lâcher prise?
On le met en place en tous les cas, et on espère clairement que ça va porter ses fruits. Après, à partir du moment où on a les bonnes personnes au bon endroit, c'est hyper fluide et ça avance quoi.
Qui sont vifs et qui sont plus intelligents que toi.
Et surtout qui sont plus compétents sur leur métier quoi. Parce que nous, finalement, on est sorti de l'école, on n'a pas d'expérience avant quoi. Donc typiquement, faire de l'acquisition ou faire une chaussure, on n'a jamais fait avant. Et du coup, une personne qui a 10 ans d'expérience dans ce métier, elle est bien plus compétente que nous pour le faire.
Et vous étiez des bons managers? Et est-ce que vous êtes des bons managers aujourd'hui?
C'est une vraie question, ça faudrait la poser à nos équipes. Je trouve que c'est très dur de savoir si on est un bon manager. Je crois que l'essentiel, c'est de se remettre en question régulièrement. Est-ce qu'on est des bons managers? Je ne suis pas capable de dire si on est des bons managers. Je sais qu'on essaie de faire ce qu'il faut et qu'on essaie de se remettre en question suffisamment régulièrement. Et c'est le gros avantage aussi d'être trois, de pouvoir se juger entre nous et de se dire voilà, je pense que ça, on devrait le faire de cette manière-là. On devrait organiser. Là, on a tous les premiers jeudis du mois des jeudis drink, tu vois, avec la tireuse à bière qui est derrière toi sur le bar, où on essaie de créer des événements de convivialité pour créer vraiment cette énergie et cette boîte qu'on a en tête. Maintenant, c'est pas ça qui suffit pour être bon manager, évidemment. Et j'ai lu un truc d'ailleurs cet après-midi qui était hyper intéressant, de savoir si la différence entre un manager et un chef et un leader. Le chef est une personne que t'écoutes et t'obéis. Le manager, c'est une personne que tu suis, et le leader, c'est une personne qui te fait grandir. Donc où est-ce qu'on se situe parmi ça? C'est une bonne question qu'on posera à nos équipes.
Ouais.
Mais je sais pas clairement te répondre si on est des bons managers ou pas. Ce que je sais, c'est que
on essaie
de le faire, on essaie de progresser, on essaie de se faire accompagner aussi par les tuteurs du réseau entreprendre sur ces sujets-là régulièrement. Et c'est hyper intéressant.
Ouais. Justement, sur l'accompagnement, parce que je pense que c'est un sujet que toutes les jeunes entrepreneurs se posent, et ils sont sollicités par des pépinières, enfin c'est pas des pépinières mais des incubateurs ou des programmes type IFM, etc. C'est des choses que vous referiez
100 fois. 100 fois, parce que c'est clairement ce qui nous a le plus apporté. En fait, le réseau Entreprendre Paris, nous, on est rentré assez rapidement. On est rentré 2 ans après le lancement de Monsieur Moustache. Et en fait, au-delà de nous apporter énormément sur des conseils, ça permet de pouvoir échanger librement tous les mois avec d'autres entrepreneurs qui ont exactement les mêmes problématiques que toi. Et en fait, ça te permet tout simplement de vider ton sac. Et c'est le cercle des alcooliques anonymes. Chacun arrive avec tous ses problèmes, les déballe. Parce que finalement, quand toute la journée tu te bats, tu vas en parler à qui? Tu vas pas en parler à tes copains, tu vas pas en parler à tes salariés, tu vas pas en parler à tes clients. Tes problèmes, t'en parles pas, tu les enfouis.
Mais ta femme?
Ouais, mais t'as pas envie de la gonfler avec ça quand tu rentres, tu vois. Enfin, moi, c'était. Moi,
c'est clair,
voilà,
c'est...
moi, j'essaie de mettre une barrière et en fait, tout ce qui se passe, enfin, tout ce qui va pas, j'en parle pas. Et je fais comme si ça existait pas pour pouvoir avancer sereinement. Et je suis un grand optimiste comme Thibaut et Guillaume, donc voilà, on avance et les problèmes, ils existent pas. Sauf qu'à un moment, c'est quand même aussi du bien d'en parler, de dire voilà, ce problème-là, je l'ai, et d'entendre un mec qui dit ouais, bah moi aussi, et un troisième mec qui dit ouais, bah moi aussi, c'était un enfer, par contre, j'ai réussi à la régler comme ça. C'était magique, et du coup, pour le coup, le réseau Entreprendre Paris, il a été excessivement bénéfique pour nous là-dessus. Au-delà même des tuteurs qui nous accompagnent tous les mois, qui sont des gens expérimentés et qui vont vraiment apporter leur expérience, le fait de pouvoir échanger avec des gens qui entreprennent en même temps, c'est magique.
Comment tu fais en sorte de pas te faire trop bouffer par le professionnel et garder ton équilibre? Tout à l'heure, tu en parlais un petit peu. Ma question, c'est comment tu fais tes choix de rendez-vous, de sollicitation, comment tu organises ta journée pour avoir une vie et pour aller faire du kite le week-end?
Alors déjà, tous les trois, je trouve que on organise notre vie un peu de la même manière, mais c'est un vrai sujet. Je trouve que c'est un sujet qui évolue beaucoup avec le temps. J'essaie clairement de pas me faire bouffer, même si en permanence je suis connecté Monsieur Moustache et typiquement j'ai ma femme qui me dit en permanence le week-end arrête tu vois, arrête de regarder les chiffres, ça sert à rien,
pose ton téléphone,
c'est ridicule. Donc j'apprends beaucoup là-dessus et ça m'aide mais d'avoir quelqu'un qui me le rappelle. Mais non, après je suis souvent connecté parce que ça me rassure beaucoup. En fait, de voir que les choses avancent. Tant que ça avance, je suis excessivement rassuré. Et en fait, le fait juste de contrôler que tout roule, ça me rassure et ça me permet de passer des bons moments en vacances ou le week-end. Voilà. Mais je suis quand même connecté tout le temps à tout ce qui se passe dans les boutiques, sur le site, les chiffres, le lancement des collections, le lancement des campagnes, voir si le marketing il est bon, s'il est rentable, si on atteint nos objectifs. Et ça, c'est en permanence.
C'est quoi les KPIs que tu regardes en permanence?
Les atteintes de chiffre d'affaires, principalement. Il n'y a que ça. Et après, juste les taux de conversion. Voilà, c'est les deux trucs que je regarde tout le temps. Tout le temps.
C'est quoi un bon taux de conversion?
Ça dépend de la période. Ça dépend clairement de la période. Tu peux aller chercher un taux de conversion de 4% quand tu es en période commerciale, tu es en période de remise ou en période de lancement. Et après, sinon, ça oscille entre. Entre 1,5 et 2,8, tu vois, je dirais.
Voilà. Okay.
Quand t'es à 2, c'est normal. Voilà. Mais ouais, non, mais du coup, équilibre vie pro, vie perso, en plus, c'est des vrais gros sujets qu'on se pose avec en interne. Comment est-ce qu'on fait pour être tout simplement plus heureux au quotidien et pour pouvoir profiter encore plus de la vie et des choses qu'on aime au-delà du travail. Et je pense que le télétravail, il passe aussi par là. Et là, nous, du coup, aujourd'hui, on fait un jour de télétravail autorisé dans la boîte, ça augmentera peut-être avec le temps. Mais je pense qu'un bon sujet, c'est de se dire est-ce que je suis capable de pouvoir partir 2 jours, 3 jours ou 4 jours pour me mettre au vert ou au bord de la mer. Moi, c'est ça qui me
ressource.
C'est ça qui me ressource à 200%. Et le fait de passer 2 jours dans la flotte, en fait, ça me libère complètement toutes mes pensées et ça me permet d'arriver avec une niaque pas possible quand je reviens au bureau, quoi.
On a en plus du confinement pendant cette période mouvementée, on a eu d'autres sujets et notamment Black Lives Matter. Ce sujet d'inclusivité, comment vous le traitez vous? Comment vous faites en sorte de montrer la diversité dans l'âge, dans la morphologie et dans la couleur de peau?
Alors nous, c'est pas vraiment un sujet qu'on s'est beaucoup posé avant ou après parce que on a eu très vite et on a encore aujourd'hui des mannequins de toute origine, donc voilà, c'est pas vraiment un sujet, et dans les équipes aussi. Après sur enfin voilà, ça n'a jamais été trop un sujet pour nous, et du coup on n'a pas vraiment réagi au Black Lives Matter, parce qu'il y a encore pas mal de marques qui réagissent de manière opportuniste, et donc du coup nous on n'a pas forcément réagi là-dessus, et on estime que pour nous c'est loin d'être un non-sujet, je dis pas ça du tout, j'ai juste que c'est un sujet qu'on a déjà en tête tout simplement, et avec lequel on vit au quotidien, et qui est un non-sujet parce que c'est notre génération, enfin pour notre génération c'est un non-sujet en fait. Le fait d'être plus grand, d'être plus petit, d'être plus fort, d'être moins fort, d'avoir des origines asiates,
ouais.
En fait c'est un non-sujet, tu vois, c'est notre vie quoi,
ouais.
Tu vois, on a 30 ans, on a vécu là-dedans, pour moi il n'y a pas de sujet, donc on... voilà.
Très bien. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de notre interview. Ça fait une heure et demie qu'on est ensemble déjà, mine de rien. C'est toujours impressionnant quand tu regardes le compteur déroulé. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais souhaité qu'on aborde ?
Pas vraiment. Enfin, il y a encore plein de sujets que j'ai en tête. Non, mais ouais, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a pas mal de questions qui ont été assez riches et assez profondes sur, sur pas mal de sujets.
Ouais.
Donc, je pense qu'on a fait le tour.
Très bien. Et ben, je te pose ma dernière question. C'est mes deux dernières questions, même trois dernières questions.
Allez,
allez, un petit peu de rab. Si tu croisais Antoine, 18 ans, qui sort du bac, non ? Tu lui as quel âge ton bac ?
17 ans.
Ouais. Tu lui dirais quoi comme conseil ? Tu lui donnerais quoi comme conseil ?
Alors, je dirais un conseil très simple, et c'est le conseil que je donnerais à ma fille et mes autres enfants si j'ai la chance d'en avoir. Mais c'est juste fais ce que t'aimes. Fais vraiment ce que t'aimes et lève-toi que avec la banane. Parce que. L'expérience que j'ai eue en finance, elle a été hyper intéressante et pour le coup elle m'a rendu très malheureuse. À la fin j'en avais plein le cul sans m'en apercevoir, mais vraiment j'étais à bout parce qu'en fait j'étais pas à l'endroit où il fallait que je sois. Et juste en fait fais ce que t'aimes et quoi que ce soit t'iras loin parce qu'en fait tu l'aimes, tu l'as dans les tripes et tu le feras mieux que les autres.
Voilà. Ouais, ça c'est un bon conseil. Autre question qui est très intéressée, c'est peut-être qu'on la coupera, mais qu'est-ce que tu me conseillerais à moi sur mon podcast et sur Réunis ? Je sais pas si tu sais, mais j'ai une marque aussi qui s'appelle Réunis.
Ouais. J'ai été voir du coup, j'ai été voir avant. Alors sur le podcast, moi, de continuer comme ça et d'essayer d'aller chercher parfois encore plus de high level, tu vois, sur des designers, ça pourrait être hyper intéressant, je pense, pour toute l'audience. Alors je sais pas exactement, toi tu dois connaître par cœur ton audience, mais je sais pas si c'est que des gens dans la mode, que des entrepreneurs qui l'écoutent, mais d'aller chercher des gens high level, je trouve que c'est souvent très très intéressant, parce que quand c'est des gens qui se livrent, ils nous disent plein
t'apprends
de trucs, on apprend énormément de choses, et ils nous disent aussi beaucoup de choses qui nous rassurent sur des erreurs qu'on peut commettre justement, ou sur des situations face auxquelles on se retrouve, mais se dire ok, bah, en fait les autres aussi ça leur arrive, c'est géré comme ça, donc ok, on se trompe pas, on peut continuer à avancer.
Ouais.
Donc ça je trouve ça hyper intéressant. Et sur la marque, je crois que ce qu'on a fait dernièrement, pour moi, une marque qui fonctionne, c'est une marque soit monoproduit, qui fait très très bien un produit, qui fait mieux son produit que les autres, soit une marque, c'est de trouver la valeur ajoutée de la marque. C'est vraiment de trouver la valeur ajoutée de la marque. Et pourquoi, en cultivant cette valeur ajoutée, je resterai toujours plus compétitif et plus intéressant que la concurrence, parce que ça reste un univers quand même qui est excessivement concurrentiel, la mode. Mais trouver vraiment sa valeur ajoutée et ce qui fait qu'on existe parmi tout ce monde.
Et vous, monsieur Moustache, qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment différent des autres ?
Bah, aujourd'hui, je te dirais le shoes made from shoes.
Ouais.
Parce qu'on est les seuls, à ce que je sache, qui récoltons dans nos boutiques, qui transformons et qui proposons une nouvelle chaussure. Et du coup, c'est là-dessus qu'on s'appuiera à partir de septembre. Et depuis le lancement et au lancement, c'était réinventer les classiques, mais c'était vraiment les mix matières et les mix couleurs. Trouver une bottine qui s'appelait Fernand à l'époque, avec un cuir en cognac et un suède bleu, en fait ça n'existait pas, on le voyait pas sur le marché, et c'était apporter notre patte, apporter cette différence qui n'existait pas. Et pareil, c'était de faire du prêt-à-chausser, donc c'est-à-dire que tous nos produits avec des semelles cuir, avec un cousu black très traditionnel, tu avais déjà un patin qui était injecté dans la semelle. Comment est-ce qu'on joue la différence? Mais nous, quand t'as 20 ans, quand t'as 25 ans, que tu vas t'acheter une paire de chaussures à 150 balles et que le mec à la fin de la caisse te dit surtout oubliez pas, passez chez le cordonnier, dépensez 20 balles de plus pour poser votre patin.
Ouais, c'est insupportable.
Évidemment, t'oublies de le faire et, ta chaussure elle est morte au bout de 2 mois et t'es trop vénère.
Ouais.
Et voilà, c'est vraiment comment est-ce que je me différencie et qu'est-ce qui fait ma valeur ajoutée. Alors même si ça aujourd'hui c'est plus forcément des valeurs ajoutées par rapport à la concurrence parce que le marché s'est lissé, c'est comment est-ce que ma valeur ajoutée, je la cultive pour faire en sorte que ma marque elle soit unique. Ou comment est-ce que mon produit unique...
Ça, c'est l'obsession de tous les jours. Quoi.
Ouais, clairement.
C'est clair. Parce qu'on n'est pas tout seul sur le marché.
Non, clairement, oui.
Et dernière question, donc, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Le Top Gun que tu voudrais entendre?
Top Gun... Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'entendre un mec, et là, je pense à lui parce que c'est la boîte avec qui on va travailler, qui est le PDG de Qantis, qui s'appelle Dimitri Caudrelier. En fait, toutes les marques, enfin beaucoup de marques dans la mode, à faire cette transformation écologique, à faire cette transition écologique. Et je trouve que ce serait hyper intéressant d'avoir le regard et la vision d'un mec comme ça. Qui bossent avec des boîtes du CAC 40 comme avec des startups, de comprendre en fait là où ils tentent d'emmener tous ses clients et la vision qu'il a pour la mode de demain. Je pense que ce serait magique d'avoir cette vision-là et ces yeux-là.
Ok, très bien. Bah, je te demanderai une petite intro alors.
Avec plaisir.
Cool. Bah, merci infiniment. Je suis ravi de t'avoir rencontré et d'avoir d'en savoir un peu plus maintenant sur Monsieur Moustache.
Bah, merci à toi.
À bientôt.
Salut.
Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.